18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, l'information du jour, c'est avec vous Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, cette nouvelle mobilisation partout en France contre la réforme des retraites. Manifestation importante pour ce quatrième round. Les chiffres dans un instant et l'analyse aussi avec les grandes voix des 18h30, 18h20. Nous serons en Australie où la France a envoyé 5 experts pour aider à lutter contre les gigantesques feux qui ravagent le pays. Je serai avec le chef de cette mission qui vient d'arriver sur place, le colonel Bruno Liac. Dès 18h30, les grandes voix dans ce studio aussi sur Harry et Meghan, figurez-vous. On les entend rarement sur ce sujet. Là, ils vont prendre quelques libertés et la fureur de la couronne, ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Enfin, à 19h30, enquête au cours des déserts médicaux. Vous prendrez la parole aussi au 39-21 avec nos invités. C'est l'info qu'il vous faut, votre grand journal du soir qui s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Si le gouvernement pariait sur l'épuisement, il n'y a pas d'épuisement.
Tout est dit, ou presque. La mobilisation ne faiblit pas. Au contraire, avec dans les cortèges aujourd'hui des nouveaux venus et des anciens toujours aussi déterminés.
Tandis ce soir que le ministre des Comptes Publics clarifie la position du gouvernement à la veille d'une nouvelle réunion sur le financement des retraites, on entendra Gérald Darmanin.
Dans le Var, depuis près de 24 heures maintenant, un homme armé est retranché avec sa petite fille de 3 ans. On sera sur place.
La justice libanaise interdit à Carlos Ghosn de quitter le pays. Nicolas Feldman nous expliquera pourquoi.
Scène surréaliste hier soir dans un géant casino de Montpellier. L'enseigne a étiqueté par erreur des téléviseurs à un prix défiant toute concurrence.
J'ai été intriguée par un groupe d'une dizaine de personnes qui traînaient des énormes cartons de grande télé d'1m50.
Et c'est suffisamment rare pour que la police ait dû évidemment intervenir.
Eh oui, Harry et Meghan veulent vivre leur vie loin des obligations royales. Coup de tonnerre à Buckingham Palace. La reine n'en a pas été personnellement informée.
Je suis tellement surprise de ça. Je pensais que la reine savait tout. Il aurait dû lui dire la vérité, que c'est son petit-fils quand même.
Et puis si le groupe mythique Oasis se reformait en 2022, les frères Gallagher seraient réconciliés.
Ah ben on aimerait bien.
Mais oui, la Bourse de Paris, elle, a fini en petite hausse de 0,19% à 6042 points.
Et Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
La tendance météo avec vous.
Alors une dépression très claire que l'on voit bien sur les images satellites et sur l'Atlantique en ce moment. Et du coup, ce soir et dans la nuit, de gros coups de vent sont attendus de la Bretagne jusqu'au golfe de Gascogne. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Peut-on parler d'un regain de mobilisation? En tout cas, de la métropole aux Outre-mer, cette nouvelle journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites a encore réuni des dizaines de milliers de personnes.
Avec la traditionnelle bataille des chiffres, la CGT annonce 370 000 manifestants à Paris. En province, près de 280 000 personnes dans plus de 80 villes, selon un calcul fait à partir des chiffres donnés par la police ou les préfectures. On n'a pas encore ceux du cabinet indépendant en occurrence, qui sont les plus fiables, qu'on vous communique évidemment dès qu'on les a à dispo.
On les attend d'un instant à l'autre, en tout cas en tête de cortège. Des responsables syndicaux toujours très remontés, comme vous avez pu le constater. Hélène Terzian, vous êtes en direct dans cette manifestation parisienne qui arrive à son terme dans le 8e arrondissement, avec tout au long des manifestants qui restent plus que jamais déterminés et avec le soutien de nouvelles professions qu'on n'avait pas forcément vues dans les précédentes manifs.
Effectivement, les manifestants massés en ce moment sur la place où il y a d'ailleurs quelques tensions avec les forces de l'ordre, eh bien, ils sont venus marteler qu'après plus d'un mois de mobilisation, ils ne lâchent rien. Mieux, insiste Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière en tête de cortège, le mouvement s'étend.
Si le gouvernement pariait sur l'épuisement, il n'y a pas d'épuisement d'une part et que deux. Là où on nous dit c'est essentiellement dans les secteurs des transports que la grève a été portée jusqu'à maintenant, eh bien moi j'avais lancé un appel à tous les corps de métier, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, à se mobiliser aujourd'hui pour montrer qu'on sait qu'on est tous concernés.
Et c'est vrai que l'on a vu ici beaucoup de cheminots, d'agents de la RATP, mais d'autres secteurs émergent. Les avocats en robe, des employés du secteur culturel ainsi que des salariés du privé. Théo par exemple craint lui aussi que cette réforme le pénalise.
Aujourd'hui c'est vraiment une réforme systémique qui va impacter tout le monde. Le fait de prendre en compte toute la carrière, non plus les 25 meilleures années, de mettre un âge pivot à 64 ans, bon, bah, c'est obligé un peu tous les salariés à travailler 2 années supplémentaires. Ben, ça impacte tout le monde.
Des manifestants unis pour le retrait de la réforme. Pour Éric Enseignant, face à un gouvernement sourd, il faut désormais monter d'un cran dans le rapport de force.
On ne va rien lâcher, mais il y a un vrai ras-le-bol là. Je pense qu'il faut que ça débouche sur une grève générale, parce qu'on va au bout de 36 jours de grève, à un moment donné, il faut qu'en effet qu'on soit tous ensemble dans la rue, public, privé, et qu'on dise stop à toutes ces réformes et stop à ce gouvernement.
Et preuve de leur détermination, ils donnent déjà rendez-vous samedi pour une nouvelle journée de manifestation.
Merci beaucoup Hélène Terzian dans la manifestation parisienne pour Europe 1.
Alors, quid de la suite? Les syndicats se projettent déjà sur la réunion de demain, bien sûr, pour préparer la conférence sur le financement. Et cet après-midi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, s'exprime sur le sujet. Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir Isabelle, bonsoir
Alors,
à tous.
Alors, entre les lignes, Gérald Darmanin, il laisse entendre qu'une sortie de crise est possible.
Une sortie de crise avec du temps, c'est le message que passe Gérald Darmanin dans les colonnes du Figaro ce soir. Le gouvernement veut pouvoir présenter toujours cette réforme des retraites le 24 janvier prochain en Conseil des ministres, mais semble désormais prêt à lâcher du lest sur les négociations de financement du futur système. En gros, le gouvernement dit banco à la conférence de financement proposée par la CFDT, à condition que l'examen du test se poursuive. Pas question donc de tout bloquer. Les éléments d'équilibre financier seraient ainsi intégrés à la copie finale. Reste à savoir quel compromis, bien évidemment, sur ce fameux financement. Quand on lit Gérald Darmanin, on comprend que l'âge pivot pourrait être retiré du projet de loi pour être remplacé par une formule plus vague, le temps de trouver un accord avec les partenaires sociaux. Derrière cette interview, il y a évidemment la volonté de Matignon d'aborder le rendez-vous de demain avec les syndicats dans une optique de compromis. C'est ce que martèle le Premier ministre. Chacun doit faire un pas, répète-t-on au sommet de l'État. Mais tout le monde aura noté que c'est le ministre des Comptes Publics qui prend la parole. Une manière pour le gouvernement de rappeler qu'il ne veut pas d'une réforme des retraites sans un financement sérieux.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et certains d'entre vous ont peut-être encore dû trouver aujourd'hui un plan B pour faire garder leurs enfants, privés d'enseignants, engagés eux aussi dans ce combat contre la réforme des retraites. Mais on verra quand même dans le journal de 19h tout à l'heure sur Europe 1 que la mobilisation des profs faiblit très nettement aujourd'hui.
Et on reviendra bien sûr sur cette nouvelle journée de mobilisation, la quatrième, donc avec les grandes voix dès 18h30. Et l'invité d'Aurélie Herbemont à 19h10, Gabriel Attal sera à son micro, le secrétaire d'État à la jeunesse.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Et on file ce soir dans le Var, où un forcené armé est retranché depuis hier soir avec sa petite fille Isabelle de 3 ans.
Oui, on vous retrouve sur place Frédéric Michel, vous êtes dans le village d'Esparon de Palières. Ça fait 24 heures maintenant Frédéric que ça dure et les négociations sont toujours en cours.
Effectivement, depuis hier soir, plusieurs négociateurs se relayent au mégaphone ou à vive voix. Ils s'adressent à ce père de 40 ans avec un ton rassurant. Le périmètre de sécurité est assez large, alors difficile donc d'entendre distinctement toute la conversation et surtout de savoir si le forcené dialogue, s'il répond aux interpellations des forces de l'ordre. Tout a débuté hier, en début d'après-midi, lorsque la gendarmerie locale est appelée par cet homme qui présente des signes de troubles du comportement. À leur arrivée, inquiet et craignant pour la sécurité de l'enfant, les militaires demandent l'intervention des pompiers afin de prendre en charge le père de famille et d'envisager une admission à l'hôpital. Ils arrivent à le convaincre de sortir, mais en se déplaçant vers le véhicule de secours, l'homme leur fausse soudainement compagnie et s'enferme au domicile de sa mère. Il se saisit alors d'un fusil de chasse et menace les forces de l'ordre qui parviennent quand même à extraire de la maison la mère et la sœur de l'individu. Dans ce petit village du Haut-Var, tout le monde se connaît. Plusieurs habitants évoquent un problème de garde d'enfants. Pour Albertine, une voisine, c'est sans doute ce qui est à l'origine de ce coup de folie.
Je sais qu'ils étaient séparés, mais lui, je le voyais quand même là tous les jours. Je le voyais toujours avec sa gamine, il s'en occupait bien. Mais voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est quelqu'un loin d'être idiot ou je sais pas. Enfin, non, non. Je pense que oui, il a pété les plombs. Quand il y a des histoires d'enfants, en général, les gens pètent les plombs. C'est triste pour tout le monde. J'espère que ça va bien se terminer, surtout.
Oui, depuis cette nuit, le GIGN est sur place. On voit ces hommes en cagoule noire sillonner le centre du village. Il n'y a pas de tension particulière, ce qui veut peut-être dire que les forces de l'ordre prennent leur temps, s'installent dans la durée, attendant un coup de fatigue du forcené. La vie d'un enfant est en jeu. Il n'est sans doute pas question d'intervenir en déclenchant un assaut. Tout le monde sur place espère un dénouement en douceur.
Et vous suivez ça bien sûr. Merci Frédéric Michel dans le Var pour Europe 1. La mort du jeune écologiste Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens en 2014. Le non-lieu en faveur du gendarme qui a tiré ce jour-là la grenade explosive. Ce non-lieu a été confirmé. La tenue d'un procès s'éloigne donc, mais la famille a l'intention d'aller devant la Cour de cassation et même, pourquoi pas, devant la Cour européenne des droits de l'homme si nécessaire.
On y reviendra à 19h d'ailleurs avec l'un des avocats de la famille. Au lendemain de sa conférence de presse retentissante, la justice libanaise interdit à Carlos Ghosn de quitter le pays.
Nicolas Feldman, on vous retrouve. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Nicolas, l'homme d'affaires a été entendu ce matin.
Oui, Carlos Ghosn entendu au palais de justice de Beyrouth dans deux affaires distinctes. La première, c'est ce mandat d'arrêt international lancé la semaine dernière par Interpol à la demande du Japon. Carlos Ghosn s'est expliqué sur les accusations de malversation financière. Et désormais, le Japon a 40 jours pour envoyer à Beyrouth le dossier d'accusation, toutes ces pièces accumulées depuis le début de l'enquête, censées étayer les accusations. Mais en attendant, comme le veut la procédure, l'ex-PDG a reçu l'interdiction, vous le disiez, de quitter le Liban et a donc dû remettre ici aux autorités son passeport français. Un peu plus tard dans la matinée, une seconde audience, elle portait, elle, sur une plainte déposée la semaine dernière par 3 avocats libanais. Ils accusent Carlos Ghosn d'être entré en Israël, ce qu'interdit la loi ici. Je vous le rappelle, le Liban et Israël partagent une frontière commune et sont techniquement en état de guerre. Ce matin, devant les juges, Carlos Ghosn est revenu sur cette visite, celle non pas d'un citoyen libanais, mais d'un homme d'affaires français, alors encore à l'époque patron de Renault.
Nicolas Feldman à Beyrouth pour Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition de 18h quand une erreur d'étiquetage entraîne l'intervention de la police dans un hypermarché casino.
Et puis shocking, le prince Harry et son épouse Meghan ont l'intention de devenir un couple comme les autres, ou presque.
Votre grand journal du soir, c'est toute l'info qu'il vous faut jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Une télé à 30 euros au lieu de 430. Oui, c'est pas une blague, hein. C'est arrivé, Isabelle. Et oui. C'est tentant, d'ailleurs.
Effectivement, une erreur d'étiquette a entraîné une ruée dans un géant casino de Montpellier. Racontez-nous tout ça, Jeanne Bergaoui.
Eh bien, il faut d'abord imaginer la pagaille. Hein. Hier, vers 18h, au rayon high-tech, les premiers clients découvrent des télés dernier cri affichées à 30 euros, des ordinateurs à 13 euros ou encore des machines à café et des tablettes 10 fois moins chères que d'habitude. Ces clients croient donc à des promotions exceptionnelles. En quelques minutes, c'est le bouche à oreille dans le magasin. Tous s'emparent de plusieurs appareils électroménagers et courent vers les caisses. Son caddie rempli, Anne-Sophie tente elle aussi d'en profiter.
J'ai été intriguée par un groupe d'une dizaine de personnes qui traînaient des énormes cartons de grande télé d'1m50. C'est vrai que l'effet de foule, je ne vais pas mentir, a beaucoup aidé à ce que je me retrouve là aussi. Je me suis dit, on est autant, ça va forcément marcher. Le directeur est venu lui-même devant nous, nous a toujours dit que la marchandise ne sortirait pas, etc.
Rien ne sortira puisque la direction réagit très vite et demande au caissier de ne plus scanner ses articles. Pour Casino que l'on vient de joindre, l'explication est très simple. Il s'agit d'un bug informatique, d'une erreur humaine de leur prestataire. Concrètement, la taille de police utilisée pour ces étiquettes électroniques était trop grosse. Un prix de 300 euros, par exemple, ne rentrait pas dans le cadre et le prix affiché était donc de 30 euros. Mais les clients ne veulent rien entendre, ils entament alors un bras de fer, bloquent l'accès aux caisses. La sécurité du magasin est débordée à tel point que plusieurs dizaines de policiers interviennent et se positionnent à la sortie des caisses. Après plusieurs heures de face-à-face, les clients sortent sans télé et le supermarché baisse finalement le rideau à 1h du matin.
On aime beaucoup cette histoire. Merci, Jeanne Bergaoui.
Il n'y en a pas un qui a réussi à sortir avec une télé. Hein,
c'est pas très clair, mais a priori non.
A priori non.
Qui nous appelle. En Grande-Bretagne, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont créé la surprise hier soir en annonçant leur décision, vous savez, de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale. Ils ont l'intention de s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord parce qu'ils ne supportent plus, disent-ils, la pression médiatique.
Et oui, quel tintouin, une annonce qui intervient après une année compliquée pour la monarchie britannique. La reine Elisabeth II elle-même évoquait pudiquement, lors de ses vœux, une année semée d'embûches.
Oui, c'est clairement un coup de tonnerre. D'autant qu'ils ont apparemment fait ça en douce, sans prévenir Sa Majesté. Et Johanna Chabas, la correspondante d'Europe 1, a rencontré des Britanniques plus ou moins compréhensifs.
Je suis tellement surprise de ça. Je pensais que la reine savait tout. Il aurait dû lui dire la vérité, qu'ils allaient faire ça. C'est son petit-fils, quand même.
Je pense qu'on peut être assez intrusif avec les médias. Quand vous êtes parents pour la première fois, vous avez envie d'être à la maison avec vos enfants. Oui, ils sont membres de la famille royale. Oui, ils ont un boulot à faire, mais ce sont aussi des parents.
C'est vraiment décevant parce que la famille royale se mettait en quatre pour les aider. Meghan savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a épousé Harry. Les Britanniques auraient fait n'importe quoi pour qu'ils se sont accueillis et ils ont poignardé tout le monde dans le dos.
Voilà pour ces Londoniens en micro-européen de Johanna Chabas.
On retrouve à 19h20 dans Demain dans le Monde. Vous connaissez votre rendez-vous et on sera sur les coulisses de la fortune du couple avec elle. Hier soir dans le journal, on vous parlait de David Bowie avec la sortie d'une version acoustique inédite. On a adoré. Ce soir, on a une autre bonne nouvelle.
Eh oui, bonsoir Angèle Châtelier. Bonsoir. Des rumeurs évoquent une possible reformation du groupe Oasis. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe pour les fans du groupe. Angèle, dites-nous tout. Le groupe est vraiment en train de se reformer ?
Eh bien, peut-être. En tout cas, les fans se souviennent de l'été 2009. Les frères Gallagher, après une énième dispute, décidaient d'arrêter le groupe avant leur concert au festival Rock en Seine. Oasis était pourtant 59 millions d'albums vendus. Un groupe devenu référence dans le rock. Et pourtant, 11 ans après, Liam Gallagher a laissé entendre qu'Oasis pourrait se reformer en 2022.
«
Dans un tweet publié hier soir, il confie avoir reçu un appel de son frère, Noël, le suppliant, je cite, de faire renaître le groupe. Mais Liam Gallagher n'a jamais caché cette envie. En 2018, déjà, toujours sur Twitter, il s'adressait à son frère en lui proposant de reformer Oasis. Le tweet était resté sans réponse. Alors, coup de buzz ou vraie décision, réponse en 2022.
By now, you should have somehow realized what you gotta do. On est pour, nous.
Ah, c'est quand même le même refrain depuis 2009. C'est ça, Angèle. Hein. Donc, on n'est pas très sûr. Mais bon, 2022, c'est demain. Merci beaucoup, Angèle Châtelier. Merci beaucoup, Isabelle Millet. Votre retour à 18h30. Et la météo d'Anissa qui nous dit attention au vent en soirée.
Oui, effectivement. Ce soir et cette nuit, il y a une dépression qui est bien visible là sur les images satellites. On la voit avec les nuages tourbillonnants. Alors, ce soir et cette nuit, sur la Bretagne et la Vendée, un gros coup de vent est attendu avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Soyez très prudent, évitez de sortir ce soir. Cette dépression, elle va gagner les Hauts-de-France dans la nuit. Alors attention, sur la pointe Finistère, ce soir, jusque sur le golfe de Gascogne, le vent va être fort et il pourrait même créer des vagues jusqu'à 8 mètres. On attend peut-être des vagues submersion, surtout dans le golfe de Gascogne. Cette dépression, elle se déplace vers le nord. Là, les vents seront moins violents. Et avec sur le Val-de-Loire et les Ardennes, des vents demain matin à 60 km/h. Demain, la journée, c'est assez simple. Une précipitation, une perturbation qui arrive à l'est de l'Alsace au Pays Basque. Là, c'est de la pluie pour tout le monde. Et puis à l'arrière de la perturbation, plus à l'ouest, c'est une journée assez ensoleillée. Les températures, moins 2 à 9 degrés demain matin.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée Nathalie Lévy.
Ouais, plus d'un milliard d'animaux qui sont morts dans le feu en Australie. La France a envoyé 5 experts de la lutte anti-feu. Ils viennent d'arriver sur place. Le chef de cette mission pour lutter contre le monstre, hein, comme il est surnommé sur place, le colonel Bruno Illiac, sera avec moi dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, avec les gigantesques feux en Australie, la France a envoyé 5 experts de la lutte anti-feux de forêt. Ils sont sur place depuis quelques heures, en ligne avec vous ce soir depuis l'état de Canberra. Le chef de cette mission, le colonel Bruno Illiac.
Bonsoir colonel Bruno Illiac.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes vous en Australie, vous êtes arrivé tout à l'heure à Canberra. Vous allez vous rendre dans quelle zone précisément? On sait que c'est l'état de Victoria qui est le plus particulièrement touché, avec des feux hors de contrôle. C'est au sud-ouest de Canberra, vous allez être sur zone incessamment?
Alors écoutez, effectivement, aujourd'hui on a passé la journée avec des réunions avec les différentes autorités du gouvernement fédéral et local de Canberra. Nous allons nous déplacer demain dans l'état de Victoria, qui est effectivement touché par des feux importants. Très probablement, samedi ou dimanche, nous irons dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, qui est le plus touché en ce qui concerne les feux actuellement en cours.
Est-ce que vous savez d'ores et déjà, compte tenu de ce que vous avez comme élément, quelle expertise vous pouvez apporter avec votre équipe? Vous êtes 5, hein, 5 experts français.
Alors tout à fait. Alors juste pour préciser, pour que vos auditeurs soient complètement informés de la situation, notre démarche s'inscrit complètement suite à la communication que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a eue avec le Premier ministre australien pour apporter la solidarité de la France vis-à-vis de l'Australie. Donc nous, on s'est déplacé sur place pour apporter notre expertise, mais en totale humilité, parce qu'on est face à une dimension de feu qui est sans précédent, des feux qui sont gigantesques, sur des dimensions en superficie qu'on ne connaît pas, hein, pour être très honnête avec vous. Néanmoins, on a une certaine expertise, et on voudrait en toute humilité apporter notre soutien à nos collègues australiens, qui font un travail remarquable au quotidien, mais qui peut-être, puisqu'on n'est pas à la fin de cette saison, hein, cette saison ne fait que débuter, c'est saison de feu de forêt, cette saison devrait atteindre son pic au début février. On voudrait voir avec eux comment, dans les prochaines semaines, on pourrait leur apporter un soutien un peu plus efficace.
Alors justement, quelles pourraient être les techniques venues de la France pour lutter contre ces feux de forêt? Des techniques peut-être que les Australiens ne maîtriseraient pas ou ne connaîtraient pas? Est-ce qu'on a, nous, une expertise particulière compte tenu des feux qu'on peut connaître régulièrement dans le Var, notamment dans le sud de la France?
Je précise que dans cette équipe qui est venue des experts en coordination air-sol, hein, c'est-à-dire de contrôler et de commander l'organisation et la réponse sur les feux entre les moyens aériens et les moyens au sol. On a un expert en ce qu'on appelle en brûlage tactique, c'est-à-dire mettre des contre-feux pour arrêter le développement de certains feux. Et puis des experts en gestion de grosses opérations de feux de forêt. Donc c'est cette expérience qu'on veut apporter, mais encore une fois, en respectant le travail qui est fait et qui est sur des dimensions que on ne connaît pas en France.
Il faudra
être très prudent sur notre...
Très prudent, on l'a bien entendu, vous œuvrez évidemment parce qu'on est face à des feux... qui ont été surnommés, le monstre, d'ailleurs, par la presse locale. On sait que les distances aussi, elles sont incomparables avec ce que l'on connaît en France ou ailleurs, parce qu'en Australie, pour aller puiser de l'eau, pour aller trouver de l'eau, c'est pas des kilomètres, mais c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres parfois, des distances incomparables, des feux d'une violence extrême. Aujourd'hui, on est déjà à un bilan très lourd, déjà 24 morts, plus de 100 000 foyers déplacés. On a aussi... Outre les pertes humaines, on sait qu'il y a 1 milliard d'animaux décimés. Est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous pensez déjà à des techniques pour sauver, pour les protéger ? On parle beaucoup des koalas et le monde entier s'en émeut.
Effectivement, il y a un bilan écologique, environnemental très important, avec, comme vous l'avez précisé, plus d'un milliard d'animaux qui ont été détruits, qui sont disparus. Aujourd'hui, les Australiens sont en train de mettre un dispositif pour permettre de sauvegarder tout ce qu'ils peuvent sauvegarder dans le domaine de la faune, mais également de la flore. Et je dois vous reconnaître aujourd'hui que notre réponse sera éventuellement opérationnelle dans un premier temps. Mais nous envisageons par la suite d'apporter aussi notre soutien dans le domaine de la réhabilitation. Vous savez que quand il y a des feux de forêt, il faut refaire repartir la flore après, et évidemment la végétation. Et on a une certaine expertise avec, en l'occurrence, l'Office national des forêts en France, qui travaille en proximité avec nous au quotidien. Et je pense qu'on a un certain savoir-faire à apporter dans ce domaine.
On sait que les conditions météo, elles sont un facteur déterminant pour la propagation des feux. Est-ce que vous savez, là, ce qui est d'ores et déjà prévu? Et comment vous vous êtes préparé en amont pour être sur le terrain demain?
On annonce pour demain et samedi des journées en situation chaude. Sur les secteurs des États de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et de Canberra, avec des températures qui devraient avoisiner 39 degrés. Vous avez deux feux gigantesques actuellement. Un est situé au nord-ouest de Sydney, pour situer sur une carte un feu qui est gigantesque, puisque on est sur une superficie de 500 000 hectares détruits actuellement. Et un autre dans l'État de Victoria, au sud-ouest de Canberra, à un feu d'une superficie de 300 000 hectares, où les pompiers essayent de faire des opérations ce soir et cette nuit pour éviter une aggravation dans les journées de demain, puisqu'on annonce un vent soutenu demain avec une vague de chaleur importante sur 2 jours.
Colonel, une dernière question en quelques secondes. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui régulièrement. Voilà, on y est, forte chaleur et sécheresse. Ça y est, c'est un échantillon de ce que l'on va vivre.
Bah écoutez, je crois que on l'a un petit peu vécu en France l'été dernier. Vous avez vu qu'il y a eu des feux dans le sud de la France, mais le centre de la France, même le nord de la France, ont été touchés par des feux de broussailles, des feux de forêt, mais aussi des feux de récolte sur pied. Donc effectivement, il faut s'attendre à ce que dans les prochaines années, ce réchauffement climatique engendre des feux à certaines périodes de l'année, qui effectivement vont nous poser quelques soucis dans le domaine de la dimension des feux, mais aussi des zones géographiques sur lesquelles ils seront implantés. Ouais.
Et pour conclure, est-ce que vous aurez aussi un mot à dire sur le nombre d'hommes à pied d'œuvre sur le terrain? Vous saurez peut-être évaluer ou réévaluer la présence de pompiers nécessaire. Aujourd'hui, évidemment, nombre de pays ont apporté leur aide aux Australiens, mais est-ce que vous pourrez dire si oui ou non il manque encore des forces en présence?
Il est sûr que si nous, on nous demande un appui, si on demande l'appui de la France, et je préciserai, si on demande l'appui de l'Union européenne, on s'inscrirait dans cette démarche, bien évidemment. Et surtout, pour aider nos collègues australiens qui sont exténués pour des mois de lutte
depuis
sur ces incendies, et pour les remplacer depuis septembre. Enfin, on parle de septembre, mais les feux ont commencé, pour être très honnête avec vous, depuis juillet.
Merci beaucoup, colonel, en tout cas Bruno Uliac, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1 depuis l'Australie où vous êtes arrivé il y a quelques heures. Merci à vous.
Je vous remercie. Au revoir.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 à suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel d'été d'Isabelle Mie et puis bien sûr les grandes voix qui s'installent dans ce studio. Bonsoir à vous, les grandes voix. Quatrième Bonsoir. Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle. Et puis la grève qui continue. Et puis Harry et Meghan, tiens, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus. Qui claque la porte, c'est dans un instant.
Vous pouvez poser toutes vos questions aux grandes voix dès maintenant. 39-21, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Mier.
Et Philippe Martinez dénonce l'attitude provocatrice du gouvernement. Le patron de la CGT était en tête du cortège parisien cet après-midi. En cette quatrième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, près de 200 rassemblements un peu partout en France. On n'a pas encore les chiffres officiels, ça ne devrait pas tarder, mais la mobilisation semble plus élevée en tout cas qu'avant les vacances, qu'avant la trêve de Noël. Nous sommes à la veille d'une nouvelle rencontre entre les syndicats et le gouvernement. La CFDT maintient son ultimatum. Si l'âge pivot reste dans la loi, c'est non. Le syndicat menace de ne pas participer aux discussions demain matin si cette mesure n'est pas retirée. Tandis que le ministre de l'Action et des Comptes Publics rappelle que l'âge pivot est juste et efficace, même si, dit-il, le gouvernement est ouvert à un cocktail de propositions. Pour ce qui est des prévisions dans les transports demain, prévoyez 4 TGV sur 5, 3 Transiliens et 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 3. Dans le Var, ça fait maintenant plus de 24 heures qu'un homme est retranché chez lui avec sa petite fille de 3 ans. Les négociations sont en cours, il est armé. La mort de Rémi Fraisse à Sivens en 2014, la justice a confirmé aujourd'hui le non-lieu en faveur du gendarme qui avait jeté la grenade explosive qui a tué le jeune écologiste.
Merci Isabelle, l'info revient avec vous dans une demi-heure, un peu moins. Et Anissa nous dit qu'il y a beaucoup de vent dans les prochaines heures, alors soyez prudents.
Oui, il va falloir faire très attention effectivement parce qu'il y a une dépression qui est bien visible là que l'on voit sur l'Atlantique et qui arrive sur la France ce soir et cette nuit. Elle arrive d'abord par la Bretagne et la Vendée avec un gros coup de vent prévu ce soir et cette nuit jusqu'à 110 km/h. Cette dépression, elle va gagner les Hauts-de-France au fil des heures et plus elle avancera dans le pays, plus elle perdra en intensité. Attention, forte houle prévue sur le Finistère cette nuit. Sur le golfe de Gascogne, on attend aussi des vagues jusqu'à 8 mètres. Cette dépression, elle va se déplacer vers le nord. Là, les vents seront beaucoup moins violent et avec demain matin sur le Val-de-Loire et les Ardennes des vents à 60 km/h. Les températures demain matin, moins 2 à 9 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec jusqu'à 19h comme chaque jour le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Et bonsoir à tous les trois. Merci bonsoir, d'être Nathalie. Dans ce studio ce soir pour regarder encore une fois ce qui s'est passé un peu partout en France et de 4, cette nouvelle journée de manifestation, de mobilisation interprofessionnelle pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, tandis qu'on en est au 36e jour de grève dans les transports, notamment RATP, c'est là où il y a encore le plus de perturbations. Et on attend, bien sûr, demain, Édouard Philippe qui doit recevoir les partenaires sociaux à Matignon pour parler de cette conférence de financement proposée par la CFDT. On n'a pas encore les chiffres officiels, Isabelle Mier le disait, sur la mobilisation du jour. Annoncée par la CGT tout à l'heure, près de 370 000 personnes à Paris contre 350 000 le 17 décembre, il y a à peu près 15 jours de cela. Catherine Ney, vous avez vu les images aujourd'hui, vous avez suivi aussi. On a l'impression d'un essoufflement ou plutôt on y retournait motivé et
moi,
confiant.
J'ai l'impression qu'il y avait du monde quand même, mais combien Je ne peux pas le dire. Enfin, c'est pas un échec pour ceux qui voulaient faire grève, mais on va voir combien il y en aura dans tout le pays. Enfin, ça n'a rien de comparable avec les manifs en 2010, quand on pouvait compter jusqu'à 1 million de personnes dans les rues. Bon, s'il y en a je sais pas, 200 000, 300 000, ça sera bien, mais ça sera bien, mais pour la nuisance, pour les gens, ça sera toujours terrible. Voilà,
La nuisance, elle continue avec même 40% des TER et un tiers des Transiliens en circulation aujourd'hui. Charles Villeneuve, on entend, au moment où on se mobilise pour la quatrième grande journée, Gérald Darmanin, interview au Figaro aujourd'hui même, Gérald Darmanin, ministre de l'Action des Comptes Publics, qui à ce stade, on peut dire que c'est au nom de l'exécutif qu'il parle, et qui dit ceci. Il dit à la fois que le gouvernement continue de penser que l'âge pivot est une mesure juste et efficace, que chacun doit faire un pas, gouvernement et syndicat, et que l'exécutif est prêt à donner du temps à la conférence sur le financement. Comment interpréter à ce moment-là les propos du ministre ?
Mais moi je trouve que justement c'est la résurrection de l'ancien monde par rapport au nouveau monde. Je trouve que dans la majorité, si vous voulez, ça tangue, indéniablement, que l'aile droite retrouve ses réflexes, que l'aile gauche retrouve les siens, et que le « en même temps » me semble disparaître, justement. Et qu'on retrouve, si vous voulez, la ligne de clivage classique, c'est-à-dire la droite à l'image du Premier ministre. L'âge pivot est important, l'équilibre financier est important pour une réforme dite universelle à points. Et dès lors, il faut un équilibre financier, d'où l'âge pivot de 64 ans. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi une frange non négligeable qui vient de la gauche dans La République en marche, qui, elle, de toute façon, dit finalement réforme universelle et seulement universelle. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a un retour à l'ancien monde par rapport au nouveau monde, enfin à la fameuse formule.
Michaël Darmon, cette interview-là de Gérald Darmanin, maintenant, à la veille de la prise de parole de Édouard Philippe, ça a vocation à quoi ? Entretenir la confusion ?
Non, ça a vocation à préparer les esprits, puisque cette conférence de financement va exister, que vraisemblablement l'âge pivot va
disparaître,
sortir du texte, mais ça ne veut pas dire que la mesure ou les envies de trouver ou le besoin de trouver un équilibre pour le système des retraites ne va pas disparaître, mais la formulation va très certainement donc s'estomper, disparaître et trouver une autre voie, et que de ce point de vue-là, on est dans une logique de compromis qui va pouvoir se trouver très certainement demain. Ou en tout cas c'est ce qui sait déjà demain. Moi, ce qui me frappe, on a évoqué quelques instants les mobilisations, on est quand même dans une logique maintenant, on est rentré dans la partie en trompe-l'œil de ce conflit. 370 000 personnes, c'est pas grand-chose. On est à l'échelle du pays. On est maintenant sur un conflit parisien,
francilien.
Donc,
tout au
quand
moins.
Les auditeurs qui habitent ailleurs qu'à Paris entendent ce qui se passe, ils te disent mais chez nous ça roule, chez nous c'est pas ça. Bloqué. Donc, il faut aussi prendre conscience que tout cela est en train de s'amenuiser.
On s'en reparle dans un instant. Vous allez évidemment nous livrer votre analyse sur tout ça et puis cette attente autour d'Édouard Philippe demain, parce qu'il l'a dit, Laurent Escure, à l'UNSA. Il a dit c'est demain la deadline. Hein.
Et vous pouvez bien sûr vous aussi poser vos questions et réagir en direct avec les grandes voix. Ça se passe au 39-21, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michaël Darmon et toutes vos réactions au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Alors évidemment, on discutait en off, on dit entre nous. On discutait de la lecture de chacun et elle est différente autour de cette table parmi les grandes voix sur ce qui se joue quand Gérald Darmanin dit ce soir à la fois que l'âge pivot est une mesure juste, quand Djebari, de l'autre côté, le ministre des Transports, dit on va bouger sur l'âge pivot, c'est pas une nécessité. Alors Catherine, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Non mais Darmanin, qui est un proche du Premier ministre, dit l'âge pivot est une mesure efficace et juste, mais le gouvernement est ouvert à toute une sorte de proposition. Mais il dit la même chose que Djebari, qui dit tout est ouvert sur l'âge pivot, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'une négo, s'il doit y avoir un accord, ça passe forcément par la disparition de l'âge pivot, parce que la CFDT l'exige et que bon. Mais il faut aussi que la CFDT s'engage à vraiment mettre l'histoire d'équilibre financier, de s'engager et d'accepter et de proposer différentes mesures pour y arriver. Et c'est là peut-être que le bât blessera. Mais en tous les cas, c'est la condition sine qua non pour que la CFDT signe l'accord. Ce qui ne veut pas dire que les trains vont rouler après.
Bien sûr.
C'est simplement un coup d'air, un peu d'oxygène pour le gouvernement, mais
jusqu'à demain, on va voir ce que dit demain Édouard Philippe. Les trains y roulent mieux, mais quand même, le taux de grévistes a rebondi encore à 32,9% aujourd'hui contre 6,8% hier.
Oui, ce qui est symbolique parce que ce sont les journées mobilisation.
Exactement,
donc,
malgré tout, c'est à signaler et ça a encore empêché des gens. Charles Villeneuve, Catherine nous disait on est dans le en même temps. Vous nous disiez aussi on est dans le en même temps parce qu'on entend évidemment.
Non, moi je dis que le en même temps a plutôt disparu.
Oui, mais parce qu'à la fois, il faut servir la droite, il faut les écouter. C'est Darmanin qui s'y colle, du coup, le ministre de l'Action publique.
Mais moi, ça me paraît beaucoup plus complexe que tout ce que je viens d'entendre, aussi bien de Michaël que de Catherine. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la manifestation et qu'on écoute les prises de parole d'un certain nombre de représentants syndicaux, on découvre avec surprise quand même que si on écoute la CGT et FO, finalement, c'est une réforme qui profite qu'aux cadres. Et tout d'un coup, on voit le représentant de la Confédération Générale des Cadres qui vous dit, de toute façon, on ne va pas se laisser faire. Parce que nous, de toute façon, dans cette affaire, on nous oublie complètement. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que la voie de sortie est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, qu'on ne le présente, qu'on ne l'imagine. Parce que ce que j'entends là, c'est ce que raconte en sous-main le pouvoir, l'exécutif. On va faire disparaître, on va occulter complètement l'âge pivot, part des artifices de langage et de communiquer. Je veux bien, mais le Premier ministre, qui a fait sa marque de fabrique justement du maintien de l'âge pivot, ben, il sera quand même ébranlé sur le plan de son image, de sa fameuse image de marque. Alors le président de la République, lui, qui n'a rien dit que seulement je voudrais un compromis assez rapide, c'est tout, parce qu'il n'a pas fixé de ligne de conduite réelle. C'est pour ça que je trouve que c'est alors, la voie de sortie est beaucoup plus complexe qu'on le croit.
Alors, Michaël Darmon.
Bah, paradoxalement, si effectivement l'âge pivot disparaît, c'est Édouard Philippe qui va gagner. Parce qu'en réalité, vis-à-vis de l'électorat de droite, il sera tombé au champ d'honneur. Donc il n'aura pas, lui, perdu ses valeurs. Il aura perdu parce que le président de la République a intégré la notion d'âge pivot, de mesure d'équilibre.
C'est compliqué, depuis, ça, hein.
Bah, il a intégré, bah oui, c'est compliqué.
C'est très simple.
Non, mais ce que je veux dire, la complexité...
Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord.
La complexité n'est pas le monopole.
Tu tiens un langage de l'exécutif. Je ne tiens aucun langage exécutif.
Je vois comment les choses se dessinent. Tu ne vois pas les choses.
C'est ce qu'on nous explique l'un après l'autre, parce que sinon les auditeurs n'entendent pas.
Les auditeurs, on va tenter de clarifier ce qui se passe du point de vue effectivement de l'exécutif. L'enjeu pour Emmanuel Macron. Et de ne pas fâcher l'électorat de la droite, parce que c'est aujourd'hui avec cet électorat qui peut être réélu en 2022. Oui. La notion, le fait aujourd'hui de dire on lâche
l'électorat de la droite,
eh bien tout simplement à ce qu'il veut absolument un âge pivot.
Et s'il renonce à l'âge pivot,
eh bien c'est Emmanuel Macron qui perd l'électorat de droite et c'est Édouard Philippe qui aura montré que lui il a tenu
jusqu'au dernier moment et qu'il a été obligé de lâcher parce qu'Emmanuel Macron finalement lui avait donné une obligation de résultat.
Sur les images des uns des autres, eh bien effectivement ça peut être cette répercussion là.
Je vous donne les chiffres, parce que c'est important de vous faire le point et de pouvoir comparer aussi, parce qu'on a les chiffres d'occurrence maintenant sur la mobilisation du jour. Alors sur Paris, cette mobilisation selon occurrence, 44 000 dans la capitale. Annoncé tout à l'heure, je vous le disais, la CGT, 370 000 personnes. Vous imaginez ? On a quasiment multiplié par...
Ah mais quand
par...
on aime, on compte pas, ah, ça bah c'est
voilà.
Connu.
Voilà, oui. Voilà la formule de Catherine. Le 17 décembre, occurrence annoncée 72 500 personnes. On était sur 40 000 le 5 décembre. Donc on voit bien que les chiffres d'occurrence, en tout cas ce soir, 44 000 contre 370 000 pour la CGT, c'est même plus un fossé à ce niveau-là. On a Kevin au téléphone dans une petite seconde. Kevin qui nous appelle du 44... Bonsoir,
oui.
Kevin.
Bonsoir, Nathalie.
Bonsoir à vous.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir donc, à vous. Bah, moi, je voulais intervenir un petit peu sur l'évolution. En effet, je suis d'accord avec vous. Hein. J'écoutais un peu le début de votre conversation. La sortie de crise, elle est compliquée parce que de toute façon, il y a un électorat de toute façon qui sera pas satisfait, que ce soit l'électorat de gauche ou l'électorat de droite. Moi, je pense qu'il y en a un qui a fui de ses couteaux en prévision de 2022, c'est Xavier Bertrand, avec peut-être une auto à l'intérieur du gouvernement qui s'appelle Monsieur Darmanin. Parce que clairement, je pense que s'il y a un recul sur l'âge pivot, moi, je pronostique une candidature à droite en dehors des Républicains classiques.
Kevin qui nous écoute régulièrement, qui intervient régulièrement aussi dans les grandes voix, je reconnais votre voix, et qui a souvent une bonne analyse, je dirais.
Bah c'est un petit d'un peu mot, d'un mot. Kevin vient effectivement d'écouter attentivement et à ce sentiment-là que je partage, qu'effectivement l'enjeu étant de pouvoir récupérer ou gagner ou conforter l'électorat de la droite, celui qui se fâchera avec, eh bien, déclenchera la possibilité d'une autre offre.
Mais pourquoi pas, si je suis ton raisonnement
Très vite.
C'est-à-dire que l'homme fort sera de toute façon à la fin de toute cette affaire, le Premier ministre. Mmh. Pourquoi le Premier ministre ne se présenterait pas à l'élection présidentielle
de 2022 ? On peut aimer la boxe, mais il faut quand même monter sur le ring.
Bon, merci à Kevin, en tout cas, toujours pertinent, et merci à vous. On se retrouve dans une seconde.
La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est dans un instant sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h tous les jours, c'est le débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
On va traverser la Manche pour se changer un tout petit peu les idées, oui. Si vous voulez bien, les grandes voix, on vous attend rarement sur ces sujets-là, mais quand même, bah, écoutez ce coup de tonnerre à Buckingham, le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui ont créé la surprise hier en annonçant leur décision de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Mais oui, je vous vois ricaner, mais ça le fait la une, ça fait aussi...
Non mais d'abord, ils n'ont jamais eu le premier rôle. Le premier rôle, c'est son frère, le frère aîné, c'est-à-dire l'héritier légitime.
Ça, oui, mais enfin, oui, ils étaient quand même, il y a 20 mois, ils étaient le couple emblématique enfin, de la couronne, parce oui, que non, mais, elle, non, mais, elle représentait.
Le premier plan.
Mais c'était pas le couple héritier, c'est pas lui qui serait le roi.
Non, et donc, je pense que c'est un très bon épisode de la future série sur la famille royale sur Netflix. Ça, parfait, parce qu'il y a quand même le business du royal baby, il y a le business du cœur, il y a le business là.
Il y a tous les ingrédients.
Évidemment, du couple qui.
Il se sent.
Le rebelle
ne peut plus supporter la surexposition médiatique et veut voler de son propre finalement de même
avec ses propres deniers aussi puisqu'ils
oui,
ont
mais ça on va voir
parce que vous n'y croyez pas Catherine vous pensez que c'est
il a quand même une rente, ça veut dire que c'est un peu pipeau, il a une rente quand même
de son père et puis sa mère avait donné l'essentiel de l'héritage lui avait donné puisqu'elle savait que son fils aîné serait roi donc il a quand même de l'argent mais voilà donc ils ont déposé des brevets il y a 2 mois sur tout ce qui était vous savez, les tasses, les assiettes, tout ce qu'on vend. Bien sûr. Voilà, donc, mais enfin, c'est pas ça qui remplit
merchandising. Voilà. Mais donc, c'est ce qui fait aussi
sur
que...
Les mugs,
etc. Voilà. C'est pour ça aussi que les critiques sont acerbes dans une partie de la presse britannique. Parce que tout ça, quand même, c'est bien joli pour l'image. Mais...
Non, mais il faut dire que les Américaines ne portent pas chance à la monarchie britannique. Ah. Hein, parce qu'avec Wallis...
Wallis
qui avait épousé...
Le moment politique est intéressant à double entrée. D'abord, ils étaient ambassadeurs du Commonwealth et ils avaient effectivement un large territoire sur lequel ils devaient réinvestir l'influence britannique au moment où justement il y a le Brexit. Les symboles étant ce qu'ils sont, c'est aujourd'hui que les députés viennent d'approuver également à Londres.
Vont d'approuver, c'est fait ou pas ?
Ils sont approuvés aujourd'hui pour le 31 janvier. Aujourd'hui, la sortie après 3 ans de sortie de crise, c'est aujourd'hui. Donc il y a un double... On va dire une double sortie aujourd'hui, Meghan et son mari et en même temps le Brexit. Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est au fond, on voit bien que quelque part, comme elle connaît parfaitement son rôle, elle est quand même actrice, elle est comédienne, elle a lu le scénario à l'avance. Elle ne veut pas se faire enfermer dans le scénario habituel de la princesse Paria à côté des chouchous.
C'est elle qui mène la barque, c'est
Kate
ça
et William. Je ne sais pas si elle mène la barque. En tout cas, ils sont les deux, de ce point de vue-là, ils sont les deux rebelles et
deux
rebelles.
Ils se sont
mais ce qui me frappe quand même. Quand même, moi, ce qui me frappe,
c'est. Tous ces commentaires ne peuvent de toute façon trouver leur efficacité qu'avec l'aval de la reine.
Il faut savoir que. 93 ans qui en a perdu son latin.
Leur refuse complètement. Bon, de toute façon, un largage total, ils ne peuvent de toute façon larguer les amarres comme ils veulent faire. Ça, c'est la première chose.
En tout cas, ils n'ont pas pris soin de lui dire.
Et la deuxième chose, c'est vrai que nous pleurons sur la dure condition d'un couple royal. C'est affreux, d'ailleurs. Avec la grève et tout le reste.
Qui pleure, parce que là, on
quand même
est
affreux. Ouais.
Non, mais là, Charles a raison. C'est que c'est
mais
quand même très étonnant.
Mais vous étiez d'accord pour en parler, Charles. Ne le faites pas à l'envers.
Je prends la défense de Charles. Et là où il a raison, c'est qu'il restera toujours étonnant, et ça m'a toujours étonné à chaque fois, à quel point en France, pays républicain, où nous avons destitué la monarchie, où on pointe en permanence les comportements de la monarchie républicaine, dès qu'il se passe quelque chose dans la famille royale, de l'autre côté de la Manche, on est absolument en passion. Donc il y a quand même un problème qu'on n'a pas réglé.
Exactement. Un vieux remords d'avoir tué et le roi et la reine.
C'est ce que m'a dit
Nicolas Sarkozy en conseil des ministres.
Non mais quand même, parce que cette rupture elle est sans précédent dans un climat effectivement politique en Grande-Bretagne qu'on commente chaque semaine depuis un moment maintenant, ou quasiment chaque semaine avec le Brexit. Sans précédent, avec une reine très âgée, 93 ans.
C'est une évolution de la monarchie.
C'est une évolution de l'autre
côté de la Manche.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait déjà laissé entendre à sa grand-mère qu'il pourrait prendre le large et qu'elle lui avait dit d'attendre, de ne prendre aucune décision. Et sans attendre, là, il l'a annoncé, alors il est passé outre. Et d'ailleurs, déjà, il y avait une forme de rupture qui avait commencé, parce que pour ses vœux, la reine avait posé sur la table la photo de son frère aîné avec la famille, tout le monde sauf les Sussex qui commençaient à lui...
Nico,
elle l'agaçait,
oui.
Elle commençait.
Non, mais Nathalie,
elle enquiquinait sérieusement.
Non, mais Nathalie, vous évoquez la reine.
D'un mot ?
La reine, si vous voulez, elle est symbolique de ce qu'elle a vécu à 23 ans dans les rues de Londres au moment du Blitz, c'est-à-dire les 47 jours de bombardement de la chasse allemande sur Londres. Et croyez-moi, sa disparition ce jour-là, ce sera toute une partie de l'histoire de l'Angleterre, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, qui va disparaître. C'est en cela qu'elle est une icône quasiment intouchable.
Alors, en tout cas, Harry et Meghan, figurez-vous qu'ils sont déjà mis sur la touche, hein, par Madame Tussauds. Le musée londonien, ils ont été relégués dans une salle annexe. Vous voyez ? Non, mais ça va vite quand même.
Oui, comme quoi, ils ont eu raison, parce que quelque part, ils étaient relégués dans l'annexe du protocole.
Bon, bah voilà, donc ça n'aura pas traîné. Merci, les grandes voix, vous êtes mouillées aussi sur ce sujet. Non. Merci à vous. On vous attend sur tous les sujets, c'est ça qui est bien. Gérard Larcher, à votre micro dimanche dans le grand rendez-vous sur Europe 1. C'est de 10h à 11h le dimanche, le patron Les Républicains du Sénat avec vous, Mickaël Darmon. Merci, les grandes voix.
À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, restez avec nous, c'est Isabelle Millet pour un nouveau journal complet.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Avec la politique à 19h10, le secrétaire d'État à la jeunesse Gabriel Attal au micro d'Aurélie Herbemont. Demain, partout dans le monde, en France bien sûr à 19h20. Et puis 19h30, une enquête vérité au sujet des déserts médicaux. C'est avec nous jusqu'à 20h. D'abord la météo des neiges, c'est à nous ça.
Alors on fait le tour des stations, Nathalie. Et j'ai d'assez bonnes nouvelles pour les amateurs de neige.
Quelques flocons, enfin.
Voilà, exactement. Alors nous sommes dans les Pyrénées, aux Angles. Le temps est perturbé. Demain, le temps est froid, avec de la neige demain matin et moins 1 degré demain après-midi. Dans le Jura, à Villers-le-Lac, le temps sera très nuageux demain avec des averses prévues. Le temps reste perturbé dans l'après-midi et 4 degrés, pas de neige dans le Jura. Dans les Alpes du Sud, à Isola 2000, c'est du beau temps demain avec quelques passages nuageux dans l'après-midi et des chutes de neige, moins 6 degrés demain. Dans les Alpes du Nord, à Courchevel, des chutes de neige le matin, beaucoup de nuages l'après-midi, beaucoup plus ensoleillé en fin de journée, moins 3 degrés le matin. En Corse, au col de Verdio, c'est une très belle journée. Pas de flocons pour la Corse. Du soleil, plus, et 6 degrés dans l'après-midi. Et dans le Massif central, à Orcival, attention demain aux fortes rafales de vent à Orcival le matin et de la pluie l'après-midi. Bonne glisse à tous. Votre grand journal du soir avec Isabelle Millet, Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est pas la grève des cheminots. Les cheminots font grève pour tout le monde. Il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est pour eux qu'on se bat aussi.
Les cheminots ne doivent pas être tout seuls à battre le pavé. Message entendu dans les cortèges un peu partout en France pour cette nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Toujours la même détermination, mais moins de monde dans la rue qu'avant Noël.
On verra que les avocats aussi ont haussé le ton avec des opérations coup de poing.
Alors que chez les enseignants, la mobilisation est en nette baisse.
Et au sommaire également, si l'avion de ligne ukrainien qui s'est écrasé en Iran avait été abattu par erreur par Téhéran, les Américains se questionnent.
Et puis une histoire d'amour au théâtre, signée Alexis Michalik. À partir de ce soir, on découvrira ça ensemble.
Anissa, le temps de ce vendredi.
Et soyez très prudents pour ce soir et cette nuit. Un gros coup de vent est prévu à l'ouest de la Bretagne jusqu'au golfe de Gascogne. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Ils étaient moins nombreux que lors de la dernière mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ça y est, on vient d'avoir les chiffres. 44 000 manifestants à Paris, selon le cabinet indépendant Occurrence, contre 72 500 le 17 décembre. C'était avant les fêtes, donc.
Oui, à Marseille, la police en a comptabilisé 25 000. Alors là, c'est plus que lors de la dernière grande manifestation, où ils étaient 20 000. Davantage de monde. Marseille, où Jean-Luc Mélenchon a appelé toutes les professions à entrer dans le combat.
Un message reçu 5 sur 5 par Gilbert Damelincourt. Il est cheminot, secrétaire général Force Ouvrière pour la région Sud.
Ah ben toujours, bien sûr, on est là et on lâche rien tant que le retrait ne sera pas effectif. C'est le but. C'est pas la grève des cheminots. Les cheminots font grève effectivement pour tout le monde, mais il ne faut pas faire trop de grève par procuration. On attend que tout le monde soit dans l'action. Parce que nous, on est là depuis le 5 décembre. Effectivement, il y en a qui commencent à dire bon, ben, le temps est long et si les gens n'ont pas compris encore qu'il faut rejoindre et renforcer le mouvement, il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est pour eux qu'on se bat aussi.
Et puis ça coûte cher aux cheminots.
Ah ben les cheminots, il y en a qui vont avoir un mois de janvier avec très peu d'euros sur le salaire, pour pas dire être à zéro, mais presque quoi. Toutes les fédérations, il faut vraiment qu'on monte au gouvernement, qu'on est tous unis, tout le monde va être touché, les salariés, les PME, les indépendantes, il faut que tout le monde soit dans la rue.
Gilbert Damelincourt, cheminot micro-repas de Nathalie Chevance.
À Marseille. Et les avocats, eux aussi, sont très remontés, on le sait, contre cette réforme des retraites. Ils ont organisé une journée justice morte ce jeudi.
Comme à Lille, où les robes noires ont d'ailleurs décidé de bloquer le palais de justice et de reporter toutes les audiences. Lionel Gougelot, ils veulent défendre leur régime autonome et sont prêts à s'inscrire le mouvement dans la durée.
Ah oui, effectivement, et à l'issue de leur assemblée générale, il y a eu ce geste fort des avocats lillois qui ont symboliquement jeté leur robe sur le pavé de la salle des pas perdus du tribunal, tandis que dehors, leurs confrères interdisaient l'accès au palais de justice.
Tout est renvoyé, monsieur. Tout est reporté, monsieur. Vous allez avoir une nouvelle date d'audience.
Ah, mais j'ai rendez-vous avec mon JAP, moi. Je
permets. On fait ça aussi pour vous défendre, parce que sinon nos cabinets vont devoir fermer et vous n'aurez plus accès à la justice.
Parce que la réforme du régime autonome des avocats, ça voudra dire des cotisations retraite multipliées par deux, financièrement insupportable pour un tiers des cabinets, selon Dimitri Bétremieux.
Et ces cabinets-là, ce ne sont pas les gros cabinets d'affaires ou d'assurance. Ce sont les cabinets qui viennent en aide aux gens qui en ont le plus besoin dans la vie de tous les jours. Les litiges de pension alimentaire, de garde d'enfants, les problèmes pénaux, même les petits commerçants.
Et donc à Lille, les robes noires comme Maître Servan Scodin ont reconduit leur mouvement de grève jusqu'à lundi.
On est prêts parce que de toute façon c'est notre survie qui est en jeu. Vous savez, nous depuis une semaine, là, on ne travaille pas, on ne passe pas de dossier, on n'encaisse pas d'honoraires et on continue à payer nos charges. Donc on souffre aussi, mais on est obligé de passer par là pour pouvoir être entendu et pour pouvoir continuer notre métier.
Et pour cela, ils envisagent d'autres modalités d'action, grève du zèle, demande de renvoi d'audience systématique pour paralyser l'institution judiciaire.
Le reportage de Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1.
Alors voilà pour les avocats. Mais quid des enseignants habituellement en pointe dans la contestation?
Eh bien justement, ils étaient beaucoup moins nombreux hein, aujourd'hui, près de 18% dans le premier degré, 16% dans le second degré. Virginie Riva, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Comment explique-t-on, Virginie, cette baisse de mobilisation?
Eh bien, il y a tout d'abord une raison financière. La grève, c'est autant de jours de perdus sur des salaires qui ne sont pas mirobolants. Il y a aussi la question du lien de confiance avec leurs élèves et les parents. Cela pèse dans le choix de faire grève aux primaires, notamment. Puis surtout, il y a une forme de découragement, d'autant que les syndicats n'ont pas encore été reçus en cette rentrée. Ça sera lundi, un découragement au moment même où il faut rester mobilisé, comme l'explique Virginie, prof d'anglais dans un lycée parisien et gréviste aujourd'hui.
Les collègues qui sont mobilisés depuis le 5 décembre, qui entendent Jean-Michel Blanquer faire comme si il ne se passait rien. On a vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles. Mais en même temps, c'est le moment d'y aller. C'est aussi le moment de leur dire qu'ils ne peuvent pas jouer avec nos vies de travailleurs comme ça. On va continuer d'essayer de convaincre pour qu'il y ait un nouveau souffle la semaine prochaine.
À cela s'ajoute une autre difficulté. Les profs de lycée qui sont massivement opposés à la réforme du bac vont avoir besoin de poser des journées de grève s'ils veulent boycotter les nouvelles épreuves du bac qui commencent dès le 20 janvier. De nombreuses raisons donc qui expliquent cette mobilisation en baisse alors que les profs sont encore dans le flou concernant les compensations qu'ils vont obtenir.
Les explications de Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Carlos Ghosn n'a pas le droit de quitter le territoire du Liban. La justice libanaise le lui interdit.
Oui, l'ancien patron de Renault qui fait l'objet, vous le savez, d'une demande d'arrestation d'Interpol. Il a dû s'expliquer hein, d'ailleurs ce matin devant le procureur à Beyrouth.
Et pour l'instant, il n'est pas poursuivi au Liban, mais le parquet a demandé au Japon l'intégralité de son dossier judiciaire.
On en vient au mystère du crash de l'avion ukrainien peu après son décollage de Téhéran. 176 morts. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. On vous retrouve en direct. Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, plusieurs médias américains laissent entendre que le Boeing aurait peut-être été abattu par un missile iranien.
Oui, ce sont des responsables des services de renseignement américains qui l'affirment à plusieurs médias. Il est, je cite, « hautement probable que le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines a été abattu par les Iraniens. Il pourrait s'agir d'une erreur de leur défense antiaérienne mise en alerte ce soir-là en attendant de voir si les Américains allaient riposter aux frappes de missiles de Téhéran. » Interrogé sur la question tout à l'heure, Donald Trump n'a pas confirmé, mais il a écarté l'idée d'un problème mécanique et il a laissé entendre qu'il y avait bien eu une erreur de la part des Iraniens.
J'ai mes doutes. D'autres personnes ont les mêmes doutes. C'est tragique ce qui s'est passé. Quelqu'un a pu faire une erreur dans l'autre camp. Ce n'est pas nos systèmes, ça n'a rien à voir avec nous. L'avion volait dans une zone plutôt dangereuse et quelqu'un a pu faire une erreur.
L'Ukraine, pays d'origine de l'avion, avait déjà fait savoir qu'elle considérait le tir de missile comme l'une des hypothèses probables. Cela rappellerait de mauvais souvenirs à Kiev, souvenez-vous, le vol de la Malaysian Airlines abattu au-dessus de son territoire en 2014.
Effectivement, merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct de New York. Le Brexit, cette fois une page se tourne. Les députés britanniques ont donné tout à l'heure, il y a quelques instants, leur approbation finale après 3 ans de crise.
Et puis on avait envie de vous parler un peu de théâtre ce soir parce que c'est un auteur incontournable, Alexis Michalik, qui est vraiment un prodige hein, du théâtre français parce que sa nouvelle pièce est à l'affiche à partir de ce soir.
Alors que les précédentes sont encore jouées en ce moment. Hein. Ça veut dire que ça va faire 5 pièces en même temps à l'affiche pour Alexis Michalik. La dernière donc s'appelle Une histoire d'amour. Thierry Geffrotin, on est loin, très loin d'Edmond, l'une de ses pièces cultes. Hein.
Bien sûr que je t'aimais. Je t'aimais tellement que je t'ai aimé alors que je n'aimais pas les femmes.
Katia et Justine s'aiment d'un amour profond et sans nuages. Pourtant, Justine va quitter Katia quelques jours seulement après la naissance de leur fille conçue par insémination artificielle. La suite de cette histoire très touchante, je ne vais pas vous la raconter, elle est pleine de surprises et de rebondissements. Ce qu'on peut révéler en revanche, c'est comment l'idée de cette pièce est venue à Alexis Michalik.
À un moment, j'ai traversé moi-même une rupture un peu douloureuse et je me suis dit, tiens, c'est le moment d'écrire cette pièce puisque ça parle de ce genre de sentiments et de ce genre d'émotions. Donc ça ne parle pas du tout de moi et d'éléments personnels de ma vie, mais en revanche, le ton, ben, j'ai pu le trouver grâce à ça et grâce aux émotions que je traversais.
Critique de la raison pure. Tu déconnes, t'es pas en train de dire ça.
Tu trouves ça pas bien?
C'est pas la question, c'est de la philo, tu as 10 ans.
J'ai 12 ans.
Oui, c'est pareil. Moi, à 12 ans, je m'enfonçais des crayons dans les yeux, toi tu lis Kant.
Alexis Michalik, auteur et comédien. Il y a 8 ans qu'il n'était pas monté sur scène et visiblement, il prend beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup Isabelle Millet.
Et cette histoire d'amour d'Alexis Michalik, c'est à partir de ce soir, donc à la Scala à Paris. Et à tout à l'heure avec plaisir.
Merci Anissa, du côté du temps, de la pluie pour demain vendredi.
Oui, effectivement Nathalie, avec la perturbation qui traverse la France, les pluies traversent l'Est et le Sud demain, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace. Ces pluies seront très présentes du lever du jour et tout au long de la journée. À l'arrière de la perturbation, donc sur la moitié ouest du pays, et bien là c'est beaucoup plus calme sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, le centre-Val de Loire, la Gironde, le Poitou-Charente et la vallée de la Garonne, les nuages matinaux laisseront place à de belles éclaircies. Sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes, la neige tombe, je vous en parlais il y a un instant, à partir de 1200 mètres. Sur les Préalpes, c'est à partir de 800 mètres, hein, donc vous aurez de la neige quand même demain. Et puis attention, ce soir et cette nuit, un gros coup de vent est attendu sur la Bretagne, sur la Vendée et le golfe de Gascogne. Donc grande prudence, jusqu'à 110 km/h cette nuit.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'interview politique ce soir avec Aurélie Herbemont, qui aura son micro dans une petite seconde, de Gabriel Attal, secrétaire d'État à l'Éducation nationale.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, l'interview politique.
Et Aurélie Herbemont, ce soir dans ce studio, vous recevez Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Bonsoir Gabriel Attal.
Bonsoir.
36 jours de grève, encore des centaines de milliers de personnes dans la rue aujourd'hui, quelques heures entre policiers et manifestants. Est-ce que vous croyez à une sortie de crise demain grâce à la conférence de financement?
On la souhaite. On y travaille, vous l'avez dit, 36 jours, c'est aussi 36 jours de galère pour beaucoup de Français. Et moi, je vais avoir une pensée pour eux. Il y en a sans doute beaucoup qui nous écoutent, peut-être depuis leur voiture, dans les bouchons, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se déplacer aujourd'hui. Et ces Français, ils attendent qu'on en sorte. Et ce que je veux leur dire à travers vous ce soir, c'est qu'on fait tout pour en sortir, pour travailler à ce compromis qu'on appelle de nos voeux depuis le départ, qui a justifié qu'on ait engagé des réunions de travail avec les organisations syndicales, qu'on ait permis aux Français de participer à travers une plateforme digitale sur cette réforme des retraites. Et la réunion de demain est évidemment très importante pour avancer vers ce compromis.
Alors la question centrale, c'est est-ce que vous allez garder l'âge pivot? Laurent Berger de la CFDT le dit, le redit, le re-redit encore aujourd'hui. S'il y a l'âge pivot, c'est sans nous, c'est non. Et en même temps, votre collègue Gérald Darmanin dit ce soir dans le Figaro, l'âge pivot est juste et efficace, ça ne fait pas trop compromis à portée de main là, si?
Gérald Darmanin, il a rappelé dans le Figaro, ce qu'on rappelle systématiquement, c'est que pour nous, pour atteindre l'équilibre, la solution qui nous semble la plus juste et la plus efficace, c'est effectivement celle de l'âge pivot. Mais il rappelle aussi, et on a toujours rappelé, et je le refais devant vous ce soir, qu'on est parfaitement ouvert à ce que les organisations syndicales proposent d'autres pistes pour arriver à l'équilibre. Il y a une proposition qui a été faite par Laurent Berger de mettre en place une conférence de financement
qui aura lieu demain pour se mettre autour de la...
Il y a une réunion demain qui a lieu avec les organisations syndicales pour justement travailler à l'organisation de cette conférence, pour mettre tout le monde autour de la table et regarder comment est-ce qu'on arrive à l'équilibre. C'est précisément ce qu'on appelle de nos voeux depuis plusieurs semaines. S'il y a une meilleure solution qui se dessine.
Mais ça fait des semaines qu'on entend que vous êtes prêt à une meilleure solution.
Ou si une adaptation de l'âge pivot est proposée et permet de prendre en compte davantage les questions de pénibilité, les questions de carrière longue, évidemment, elles doivent être regardées, elles doivent être reprises si elles reçoivent un accord et un soutien majoritaire parmi les partenaires sociaux.
Alors, vous parlez d'adaptation de l'âge pivot éventuel, sauf que Laurent Berger, il a l'air de ne pas vouloir du tout qu'il y ait le mot âge pivot dans le texte de loi qui sera déposé au Conseil des ministres le 24 janvier.
Mais ça va faire partie des discussions. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que depuis cette rentrée, il y a quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu avant les fêtes. C'est qu'il y a des propositions qui arrivent de toutes parts. Avant les fêtes, c'est vrai, on a pu avoir le sentiment qu'il y avait une situation bloquée. Qu'est-ce qu'on constate depuis le début de cette semaine? C'est qu'il y a des propositions qui arrivent sur le fond. Je pense à celle de Richard Ferrand, par exemple, pour avoir un âge pivot avec un malus temporaire.
Un malus qui serait temporaire.
Voilà, c'est une proposition. Laurent Berger fait cette proposition de conférence de financement. Donc on voit qu'il y a cette ouverture et cette volonté de dialogue et de travail chez ceux qui ont envie d'aller de l'avant. Et moi, j'y vois un signe positif, un signe que le compromis est à portée de main.
Donc ça veut dire qu'on pourrait, si on résume un petit peu l'idée, on pourrait commencer les discussions en disant c'est l'âge pivot, mais si dans quelques semaines on a mieux, on enlève l'âge pivot ou on l'améliore pour d'autres sources de financement ?
Oui, encore une fois, c'est la ligne qui est la nôtre. Nous, on fait une proposition parce qu'on est responsable et qu'on considère qu'une réforme qu'on porte, elle doit être budgétée. Et ce n'est pas juste un slogan. Moi, je suis en charge de la jeunesse au gouvernement et donc je suis sensible et attaché à cette question des déficits. Parce que quand on laisse filer des dépenses et des déficits, on contracte un impôt sur la tête de tous les jeunes de notre pays qui, un jour, auront à payer l'addition et à régler l'ardoise. Et ça, moi, je ne le souhaite pas pour les jeunes générations aujourd'hui. Il faut être responsable. Et donc, la piste qu'on a avancée en priorité, c'est effectivement l'âge pivot qui revient à dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Ce qui, moi, me semble cohérent avec l'évolution de la société, l'allongement de l'espérance de vie, cohérent avec ce qui se passe chez tous nos voisins, où le débat, ce n'est pas de savoir si on passe de 63 ans et demi à 64 ans, c'est de savoir si on passe à 65 ans, 67 ans, voire 69 ans. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Mais moi, ça me semble le plus juste et efficace. Mais encore une fois, on est parfaitement ouvert à d'autres propositions.
Parfaitement ouvert à d'autres propositions. Alors, cette conférence de financement, demain, effectivement, ce sera son calendrier, son planning de travail, si tout le monde est d'accord, sera fixé demain. Ce que dit aussi Gérald Darmanin, c'est que les conclusions de cette conférence de financement n'ont pas besoin d'être intégrées dès le début de l'examen de la loi au Parlement, donc le 17 février, mais éventuellement pour la deuxième lecture, donc au printemps. Ça veut dire que vous allez envoyer un texte à examiner au sénateur, enfin aux députés d'abord, puis aux sénateurs en première lecture, sans avoir précisément le financement.
Bah, ce qui est certain, c'est qu'on envoie un texte et un texte sera examiné par le Parlement avec une grande certitude, c'est que cette réforme sera financée.
La droite va vous pilonner si vous ne dites pas précisément comment elle sera financée. D'ailleurs, Gérard Larcher vous dit attendons la fin de cette conférence de financement avant de l'examiner au Parlement. Oui, parce qu'ils vont avoir l'impression que vous leur donnez un texte en bois à examiner.
Non, là je crois qu'il y a la recherche chez certains de toujours trouver les raisons de critiquer et de faire en sorte qu'on ne porte pas les réformes dans notre pays. Cette réforme, elle était prévue dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Elle a fait l'objet de 2 ans de travail et de discussion avec Jean-Paul Delevoye à l'époque, les organisations syndicales. Il est temps que cette réforme soit discutée par les parlementaires et soit adoptée. Moi, je le redis, à force de parler de la réforme sans en dire les détails, de parler du contexte, on en oublie finalement.
Ils vont vous dire à l'opposition que si on n'a pas les détails du financement,
et moi, je veux redire
c'est compliqué.
Je veux redire qu'une réforme qui permet de dire que qu'on soit médecin, ouvrier, infirmier, député, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, c'est une réforme de justice, c'est de l'égalité et c'est ce que les Français appellent de leur vœu, je crois.
Mais alors, Gabriel Attal, en admettant que vous arriviez à toper avec les syndicats réformistes autour de la conférence de financement et que tout va bien avec l'UNSA et la CFDT, la CGT, ils vont dire que ça va pas du tout. Eux, ils continuent à demander le retrait de la réforme. Eux, ils vont dire qu'il faut continuer la grève.
Mais vous avez des organisations syndicales, effectivement, qui sont dans une logique d'opposition absolue. Et d'ailleurs, quel que soit le projet porté par le gouvernement, il y a une opposition absolue. La CGT, elle ne s'oppose pas d'ailleurs uniquement au projet du gouvernement. Elle considère qu'il faudrait défaire toutes les réformes des retraites qui ont eu lieu dans notre pays depuis 20 ou 30 ans, comme si la société dans laquelle on vit était celle des années 80, comme s'il n'y avait pas eu de mutation dans le marché du travail, comme s'il n'y avait plus les mêmes carrières.
Mais du
comme
coup,
si
on vivait la pas galère plus que vous évoquiez, on n'est pas d'accord avec eux. La galère que vous évoquiez dans les transports, notamment pour les gens qui nous écoutent, elle peut durer même si vous arrivez à vous accorder avec les réformistes.
Bah écoutez, en tout cas, s'il y a un compromis qui se dessine, je pense que ça sera assez compliqué pour des organisations syndicales de continuer à bloquer et à entraver la liberté de circulation des Français. Il y a un moment où il faut évidemment aller de l'avant et évidemment qu'on continuera à porter ce discours-là. Mais si vous voulez, si le discours consiste à dire que parce qu'il y a des organisations syndicales ou politiques qui bloquent, il faudrait renoncer à toute réforme. Ben moi, je ne l'accepte pas dans notre pays, dans une démocratie comme la France. Parce que ça veut dire que demain, quel que soit le gouvernement, voulant porter une réforme, si une minorité décide de bloquer, d'empêcher les Français de se déplacer ou autre, de couper l'électricité, de bloquer des raffineries, il faudrait retirer des réformes. Moi, je n'accepte pas ça dans notre pays. On a des élections, des institutions, on a une démocratie et il faut avancer.
Avancer, donc quitte à laisser quelques syndicats sur le côté. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, Gabriel Attal.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, gros plan sur une enquête édifiante au sujet des déserts médicaux. La journaliste qui a écrit ce livre vient de nous rejoindre. Et puis à 19h45, bah oui, les salles de spectacle, forcément, elles sont impactées par ces 36 jours de grève. On fera les comptes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est 2 heures d'infos tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours juste avant 19h30. On s'intéresse à ce qui va se passer demain parce qu'Europe 1 a toujours un temps d'avance, Nathalie.
Et oui, on aime bien aller de l'avant, en effet, pendant cette séquence. Alors demain en France, ça démarre avec une belle histoire ce soir pour vous servir. Ce week-end encore, vous allez sans doute tirer les rois en famille, n'est-ce pas ? À la frangipane, au briochet, les galettes des rois sont sur nos tables en ce moment. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Nathalie, bonsoir.
Correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest. Alors dans l'agglomération bordelaise, un boulanger a décidé de respecter la tradition de partage liée depuis des siècles à l'épiphanie.
Oui, c'est l'initiative effectivement de Laurent Lachenal qui est à la tête de plusieurs boulangeries ici à Bordeaux et à Pessac. Ce chef d'entreprise a décidé de reverser une partie des bénéfices que génère la vente des milliers de galettes des rois dans ses magasins durant tout le mois de janvier au restaurant du cœur de la Gironde.
Il y a plusieurs traditions sur l'épiphanie. Donc il y a celle qui est religieuse et il y a celle qui est historique, encore plus ancienne que celle qui est religieuse, qui est le moment de partage avec la part du pauvre. Et donc nous avons réfléchi à comment remettre ça au goût du jour. Je donne mes invendus toute l'année au restaurant du cœur et je me suis dit, quel est le meilleur moment encore pour faire quelque chose de plus ? C'est le moment de la galette. Et c'est là où on participe, du coup, en partenariat, à reverser une participation au restaurant du cœur sur chaque galette achetée, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse. La participation est la même. Durant tout le mois de janvier, chaque galette vendue, c'est 50 centimes. Si on fait une quantité très importante, c'est génial. Si on ne fait pas beaucoup, on aura un minimum. Donc là, ça dépassera 50 centimes. On donnera un minimum au restaurant du cœur. Parce qu'on s'est engagé là-dessus.
Des galettes des rois qui deviennent donc des galettes du cœur dans ces boulangeries de l'agglomération bordelaise.
C'est très bien. Il faut diffuser ça et il faut évidemment faire pareil. Merci beaucoup. Coup de chapeau à ce boulanger. Merci à Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Merci à vous. Demain dans le monde, on s'éloigne aussi. Direction Londres avec notre correspondante Johanna Chabas. Comme promis, bonsoir Johanna.
Bonsoir Nathalie.
Ah évidemment, on ne pouvait pas ne pas venir vous voir ce soir parce que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le prince Harry et Meghan, son épouse, prennent leur distance avec la famille royale. C'est une première, ils disent vouloir être financièrement indépendants. Mais Johanna, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Demain, à quoi ressemblera leur vie de couple ?
Alors justement, c'est tellement inédit que pour eux, tout est incertain. Par exemple, le couple dit vouloir rester dans leur résidence, le Frogmore Cottage, mais c'était un cadeau de la reine, donc ce n'est pas sûr qu'elle accepte. Selon le journal The Times, Harry et Meghan pourraient même devoir lui payer un loyer. Et niveau finance, 95% des dépenses officielles du couple étaient couvertes par le père d'Harry, le prince Charles. Furieux après son fils, il pourrait ne plus vouloir l'aider.
Bah voilà, alors attendez, ils ne sont pas à plaindre non plus, vous n'allez pas nous faire croire ça, ils ne sont pas à la rue.
Alors non, évidemment, Harry a une fortune estimée à 30 millions de livres. Meghan a mis de l'argent de côté quand elle était actrice. D'ailleurs, selon les médias ici, elle peut reprendre sa carrière. Mais attention, le couple ne doit pas faire n'importe quoi. Si leur travail ne plaît pas à la famille royale, alors techniquement, elle est capable de leur retirer leur titre de noblesse.
Ah oui, alors la royauté reste sévère. C'est donc bien un couple à surveiller. La reine veille au grain, elle a 93 ans. Elle regarde de près ce qui se passe. Merci beaucoup, Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres. Londres. Merci. Demain dans nos vies avec vous Théophile Cossa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Le rendez-vous pour se projeter dans le monde de demain. Alors stop, fini. Out les cartes bleues. On paiera bientôt nos courses avec notre corps. Franchement,
oula,
attendez, c'est pas une blague.
Rassurez-vous, pas comme vous l'imaginez. Je vous parle ce soir d'un nouveau système de paiement par reconnaissance des veines de la main. Une innovation un peu dingue signée Amazon qui vient de déposer un brevet sur cette technologie.
Alors, on nous explique là comment ça fonctionne ?
Ouais, alors l'idée est simple. C'est un système de scanner sans contact, comme il en existe déjà pour les cartes bleues, mais qui identifiera cette fois les consommateurs grâce aux caractéristiques biométriques de leur paume. Alors, pour être clair, il s'agit en fait des lignes de la main, des plis et de la structure anatomique interne, c'est-à-dire les veines, les os, les tissus, autant d'éléments qui permettront d'identifier le consommateur et de le débiter. Mmh. Et oui, parce que toutes ces infos seront associées à son compte client Amazon.
En direct.
Exactement. Plus besoin de sortir son portefeuille lorsque vous ferez vos courses. Il vous suffira de montrer patte blanche devant le scanner pour valider la transaction.
Et on peut avoir une date déjà ? Il y a un objectif ?
Alors, les premières expérimentations pourraient arriver aux États-Unis assez vite. Vous savez qu'Amazon détient la chaîne de supermarché Whole Foods. Il pourrait tester prochainement donc cette innovation dans ses magasins. De quoi fluidifier le passage en caisse. Avec une carte bleue, le délai de traitement du paiement est de 3 à 4 secondes. Mais là, avec cette nouvelle techno, il serait réduit à moins de 300 millisecondes. Alors, prête à montrer patte blanche ?
Montrer mes veines. Ouais, en fait, j'ai compris. Hein, pour scanner mes veines. Voilà.
C'est Black Mirror,
voilà,
votre truc.
Hein. Merci quand même. Merci beaucoup, Théophile Cossa. Merci à vous.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec, dans la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres est juste après. 19h30, y a-t-il un docteur près de chez vous ? C'est le titre d'une enquête édifiante sur laquelle on a décidé de s'arrêter ce soir, qui concerne les déserts médicaux. Décryptage à suivre avec notre invité.
Et vous pouvez bien sûr réagir et participer à votre grand journal du soir au 39-21. C'est le standard d'Europe 1. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et des manifestants moins nombreux que lors de la dernière mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ils étaient 44 000 aujourd'hui à Paris, selon le cabinet indépendant Occurrence, contre 72 500 le 17 décembre, avant les fêtes donc. Sachant que de nombreux cortèges plus ou moins fournis ont également été recensés dans toute la France. Un peu moins nombreux donc, mais tout aussi déterminés à la veille d'une nouvelle réunion avec les syndicats pour préparer la conférence de financement. Le gouvernement estime que l'âge pivot que rejettent les syndicats est une mesure juste et efficace pour équilibrer le système des retraites, même s'il se dit ouvert à un cocktail de propositions. C'est ce qu'affirme en tout cas cet après-midi le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Les députés britanniques ont donné tout à l'heure, lors d'un vote historique, après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. Le mystère du crash de l'avion ukrainien peu après son décollage de Téhéran, 176 morts. Plusieurs médias américains laissent entendre que le Boeing aurait été abattu par erreur par un missile iranien. Donald Trump lui-même s'interroge. Et puis les Bleus du volley font un pas de plus vers Tokyo. Les Français viennent de renverser la Slovénie en demi-finale du tournoi de qualification olympique. Mais pour décrocher leur participation au JO, ils devront encore battre l'Allemagne ou la Bulgarie qui s'affronteront demain soir dans l'autre demi-finale.
Merci Isabelle Millet. L'info revient avec vous demain 18h dans ce studio à mes côtés. Et Anissa, demain, c'est le parapluie dans la poche, forcément.
Exactement. Parapluie obligatoire demain, Nathalie. Surtout si vous nous écoutez dans la moitié est de la France, avec cette perturbation qui continue sa traversée du pays, avec beaucoup de pluie, donc de l'Alsace jusqu'aux Pyrénées. Demain, sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, bien là, ce sont des chutes de neige qui sont attendues à partir de 1200 mètres. À partir de 800 mètres sur les Préalpes demain, donc vous aurez de la neige pour ce week-end. Sur la moitié ouest, à l'arrière de la perturbation, des Ardennes jusqu'au Pays Basque, le ciel est beaucoup plus dégagé, surtout demain après-midi. Attention quand même sur les côtes bretonnes, normandes et sur tout le littoral atlantique. Ce soir et cette nuit, c'est une dépression qui touche la France avec de fortes rafales de vent jusqu'à 110 km/h. Ce soir sur la Bretagne, dans le golfe de Gascogne, on attend des vagues jusqu'à 8 mètres, des vagues submersion aussi, prudence cette nuit. Les températures demain en légère baisse, 3 à 7 degrés en moyenne demain matin, 7 à 10 sur le pourtour méditerranéen.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avec votre invité. Et cette question ce soir, y a-t-il un docteur près de chez vous ?
Eh oui, c'est le titre de cette enquête choc pour saisir le vrai du faux au sujet des déserts médicaux. Bonsoir Minou Azoulay.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, réalisatrice, productrice de documentaires, de reportages également. Cet ouvrage, y a-t-il un docteur près de chez vous, aux éditions Hugo Doc. Alors vous êtes partie faire une espèce de tour de France, comme ça, sillonner nos régions pour voir de plus près, comprendre la réalité des déserts médicaux. Une enquête de plusieurs mois. Vous avez interrogé nombre d'acteurs, des élus, des praticiens, des clients, bien sûr, des patients. Et quel est le constat, au final, au sortir de ces longs mois ?
Le constat, c'est que le désert social précède le désert médical, ou il est concomitant, en tout cas. Mais c'est vraiment... Quand on dit que les jeunes médecins ne veulent pas s'installer dans des coins un peu isolés, c'est parce qu'ils sont isolés du reste de la vie, quoi. Parce qu'ils arrivent avec une famille, que la femme travaille, ou elle est médecin, ou elle travaille à côté. Ouais. Mais voilà, ils se retrouvent un peu isolés eux-mêmes.
Comment on en est arrivé là ? Comment en 2020, en France, dans un pays qui a des structures, qui a un hôpital public, qui a des médecins compétents et qui a ce savoir-faire, comment on en est arrivé là ?
Eh bien, en instaurant le numerus clausus, en disant que si on réduisait le nombre des médecins, ben on réduirait les dépenses de santé, ce qui était faux parce qu'on continue d'être malade et de souffrir. Ouais. Et puis ensuite, les querelles politiciennes, une commune a plus d'argent, elle attire plus de monde. Voilà, c'est un petit peu un scénario classique pour désertifier.
On rappelle quand même l'ouverture du numerus clausus pour former des nouveaux médecins. C'est une solution qui va avoir des effets positifs, sauf que ça ne va pas se faire en un an.
Pas avant 10 ans, voilà, sans compter tous ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui.
Exactement. Combien sont-ils aujourd'hui ? C'est un généraliste sur deux qui est âgé de plus de 60 ans, c'est ça les chiffres à peu près ?
Un peu moins.
D'accord.
Mais il y a des généralistes qui prennent leur retraite, qui continuent malgré tout.
Oui. Et vous en avez rencontré un ?
Oui.
Plus de 97 ans, oui. Toujours en exercice.
Oui, c'est une exception.
Racontez-nous cette rencontre, oui.
Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Oui.
Mais il est très passionné, il est très cadré, il a une femme qui le soutient, et puis il a la passion quoi, de son métier.
Oui, bah, au moins ça, il faut ça. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution ? Qu'est-ce que les pouvoirs publics ont décidé d'apporter des solutions ? Et est-ce que d'ailleurs, il a décidé de se pencher sur cette question ?
Oui, parce que la loi santé de 2020 apporte des solutions. Est-ce qu'elles vont être appliquées ? Ça, on verra. Mais en tout cas, elle préconise l'ouverture de maisons médicales. Mmh. Sauf qu'il y a beaucoup de maisons médicales qui n'ont pas de médecin.
Eh oui.
Elle préconise aussi de salarier certains médecins dans certaines régions. Ça, je crois que ça va venir beaucoup plus vite.
Plus facilement. Je crois que les premiers, c'était dans la Sarthe, à Marolles-les-Braux, avec des salaires parfois avoisinant les. Il faut passer la barre des 5000 euros. C'est comme ça qu'on peut être attractif. Je crois que c'était à 8000 euros dans la Sarthe.
Non, je pense que ce sera moins, mais c'est quand même plus rassurant pour les médecins. C'est vrai que ceux qui s'installent à la campagne...
Vous dites qu'on ne passera pas le seuil des 5 000 euros. Non.
Je ne peux pas vous dire précisément. Hein, mais là, ce que j'ai vu, c'est 5 000 euros, en gros. Hein.
Ouais. Ça, pour être attractif.
Voilà. Parce qu'ils vont être rassurés sur leur travail, parce qu'ils vont être entourés, parce qu'il y a des équipes pluridisciplinaires sur place, ils ne seront pas tout seuls. Et puis, voilà. Mais je crois que la loi santé, elle est peut-être formidable, mais... On oublie de remettre un bistrot, une boulangerie,
c'est
des
ça,
liens.
C'est le lien, évidemment, parce que tout
et
va
des
de
transports.
Pair. On se reparle dans une seconde. Minou Azoulay, vous êtes là pour votre livre. Y a-t-il un docteur près de chez vous ? Cette enquête sur les déserts médicaux aux éditions Hugo Doc.
Et vous pouvez bien sûr participer à votre grand journal du soir. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas, ça se passe dès maintenant. Au 39-21, c'est le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec cette question. Ce soir, y a-t-il un docteur près de chez vous ? C'est la question du dernier livre de Minou Azoulay, qui est votre invitée, Nathalie Lévy.
Ce livre aux éditions Hugo Doc. Merci d'être avec nous, Minou Azoulay. On va prendre un auditeur, si vous le voulez bien, Yves, qui nous appelle de région parisienne. Bonsoir, Yves.
Ah non, je ne suis pas en région parisienne, je suis en Haute-Normandie.
Ah bah très bien, un peu plus loin, c'est bien aussi.
Peu plus loin. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été produite, parce que moi je suis dans un petit village qui est en train de mourir. Tout vieillit, les gens vieillissent, les médecins vieillissent. On a plus besoin de médecins qu'avant. Il y a de plus en plus de demandes d'analyse qui sont faites et à chaque fois c'est du kilométrage parce qu'il n'y a rien à proximité. Il faut faire le minimum 5 kilomètres. Aller-retour, ça fait 10. Sinon, pour le dentiste, eh ben, il faut aller à 15. Pour l'hôpital, il fallait à 30. Et ça fait, ça nous laisse pas le choix,
pas
on nous laisse mourir dans notre campagne.
Et vous êtes à Dieppe et on vous salue Yves, on vous remercie. En fait, j'ai fait le lien peut-être avec la région parisienne parce qu'on va y venir dans un instant, Minou Azoulay. Au-delà de ce que l'on pourrait croire, c'est dans cette zone Île-de-France que les déserts médicaux sont là les plus prégnants. C'est à se pincer.
Là aussi parce que des médecins vont partir en retraite et là aussi parce qu'il y a peu de transport. Si on prend un rendez-vous avec un médecin à 19h, il faut quitter le bureau.
Pas de transport en Île-de-France, je ne comprends pas.
Si, mais il y a
quand
des...
on dépasse certaines zones.
Quand il y a des grèves, c'est difficile. Mais c'est surtout qu'il faut partir tôt, rentrer tôt, parce que le cabinet ne fonctionne pas toute la journée, toute la nuit. Et puis, il faut en trouver. Moi, j'ai rencontré un médecin qui était complètement découragé par la banlieue, qui est parti, quoi.
Parce que aussi, parce situation
que,
difficile.
Isolé, parce que violent, agression, et voilà.
On a les déserts médicaux, on a aussi la crise de l'hôpital depuis des semaines, des mois. On a bien vu « Ne tirez plus sur l'hôpital » paru en 2019, c'est vous qui l'avez écrit aussi. Du coup, cette crise des hôpitaux, ces déserts médicaux, tout cela, cet amalgame, on se demande, fallait s'y attendre, c'était inévitable.
Oui, mais je pense que ça traîne depuis longtemps et que les politiques... franchement, moi je crois qu'ils ne sont pas assez sur le terrain pour voir la réalité des choses. Et il y en a qui se battent sur le terrain, pourtant.
On va prendre Paul Delain, qui a aussi ce soir une petite intervention. Merci de nous appeler, Paul. Paul, comment ça se passe dans l'Ain ?
Eh bien, écoutez, madame, je ne vais pas vous parler du département de l'Ain, parce que je vais vous parler simplement de la petite région qui s'appelle le Bugey, c'est-à-dire d'environ un bassin de vie de 35 à 40 000 habitants. Je voudrais simplement vous dire que j'ai tendance à être un peu moins pessimiste que ce que j'ai entendu jusqu'à présent.
Pourquoi ?
Moi, je suis un ancien élu. Nous nous sommes battus pendant 25 ans parce que nous avions un centre hospitalier qui menaçait parce qu'il... Il était un peu vétuste. Nous étions sous la menace de ne plus l'avoir, de ne plus avoir de spécialistes. Et dans ce domaine-là, nous nous sommes battus, tous, conseil municipal après conseil municipal. Et puis nous aurons, fin mars, nous inaugurerons notre nouvel hôpital.
Ah ben voilà.
60 millions d'euros.
Une maison médicale
de budget, de coût de ce nouvel hôpital.
Ouais.
Ce qui fait que, de nouveau, il y a une attirance pour les médecins, parce que qui dit plateau technique neuf dit obligatoirement des possibilités meilleures.
Alors voilà, un peu d'optimisme, nous dit Paul, dans l'Ain, avec 5 médecins, cette maison médicale. On en a parlé juste avant la pause avec vous, Minou Azoulay. Vous nous disiez, oui, effectivement, ces maisons rurales de santé, ça commence à pousser, mais il y a quand même une énorme complexité autour de ces structures. Alors l'optimisme de Paul, on l'a entendu pour autant.
Mais il a raison, parce que...
C'est quand même peut-être la solution.
Sur le terrain, ils se battent beaucoup. Alors oui, une maison médicale, mais j'en ai vu une aussi, pendant mon enquête, qui était sur une colline, il n'y avait pas de transport. Et donc, comment on accède si on n'a pas de voiture ? Ce qui est bien pour les médecins, la maison médicale, c'est très bien pour les médecins parce qu'ils forment une équipe.
Ouais.
Voilà.
Comment on fait alors ? Quelle solution ? Est-ce qu'on oblige les jeunes médecins à aller s'installer en zone comme ça, complexe, aride ?
Je pense pas qu'on puisse obliger un jeune médecin à s'installer. C'est souvent une vocation, c'est un métier de passion. Ouais. Et si on le force à s'installer là où il n'a pas envie, il sera malheureux, donc il rendra les patients malheureux. Je pense qu'il faut réanimer les communes, les villages et soutenir les élus qui se battent pour ça. Quoi.
Donc réanimer, ça veut dire l'ensemble, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ça passe par le café, par la boulangerie,
etc. Le café,
etc.
L'animation culturelle.
Juste, je voudrais... parce que vous avez commencé votre livre aussi par les gilets jaunes. Il était une fois des gilets jaunes. Si le gilet jaune attire les regards, la pauvreté ordinaire, elle reste silencieuse, invisible. Chapitre qui dénonce l'oubli, l'abandon, voire le mépris des pouvoirs publics à l'égard des populations rurales et pauvres. On a fermé les yeux ? Les pouvoirs publics ?
On a fermé les yeux, oui. On a fermé les yeux. Et puis surtout, on n'a pas vu que la population vieillissait à ce point Et moi, j'ai vu des femmes seules, des veuves, seules chez elles pendant 24 ou 48 heures sans voir ou parler à quelqu'un.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Y a-t-il un docteur près de chez vous ? L'enquête vérité sur les déserts médicaux signée Minou Azoulay aux éditions Hugo et Doc. Merci d'être venu ce soir.
Merci.
Dans le studio d'Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
On va faire le point parce que on sait, 36e jour de grève, et bien qu'il y a des salles de spectacle qui jouent quasiment avec une rangée de spectateurs, à peine. C'est très compliqué et on fait le point, les chiffres, avec nos invités Diane Chénouda et Fabrice Roux, directeur du théâtre de l'Archipel à Paris.
Votre grand journal du soir, c'est tous les soirs avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Et chaque soir, on parle culture, la culture au sens large. Nathalie Lévy, alors avant de parler de théâtre, on va d'abord s'intéresser à la musique avec la playlist de ce soir.
Un peu de musique classique, figurez-vous, c'est aussi possible en 2020 sur Europe 1. Ce soir, la sonate pour piano numéro 14 de Beethoven, interprétée par Alfred Brandel. Depuis lundi, le podcast Au cœur de l'histoire est de retour sur Europe1.fr. Après l'épisode autour de Ramsès II, Jean Descartes vous plonge aujourd'hui au cœur de l'histoire de Beethoven, dont on célèbre tout au long de cette année les 250 sa naissance. Les podcasts Au cœur de l'histoire sont donc à retrouver sur le site Europe1.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
Prochain titre dans la playlist du 18-20, ce sera demain à la même heure, Nathalie Lévy. Ce soir, on jette un coup d'œil sur les salles de spectacle jusqu'à 20h, des salles pénalisées par les grèves. Quel impact sur la fréquentation ? Avec vous pour en parler, Fabrice Roux, il est directeur du théâtre L'Archipel à Paris, et Diane Chénouda du service culture d'Europe 1, évidemment.
Bonsoir à tous les deux, et je précise, Fabrice Roux, vous avez aussi un cinéma, vous êtes membre du comité de direction du SNES et le syndicat national des entrepreneurs de spectacle. Alors, Diane, vous êtes déjà venue dans ce studio pour nous livrer un point depuis ces 36 jours de grève.
Noël, oui,
on avait eu aussi Stéphane Guillon qui nous avait dit « c'est très compliqué ». Moi déjà j'ai du mal à arriver sur scène, mais les spectateurs, là on joue avec 10 spectateurs. Dites-nous la vérité, quel est l'impact aujourd'hui ? Ça fait depuis le 5 décembre maintenant.
C'est variable. Évidemment que les spectacles qui cartonnent, cartonnent toujours. Alors il y a certes des sièges vides, mais souvent les gens ont payé les places et s'ils ne viennent pas, c'est pas très grave. Pour les gens qui veulent voir des spectacles qui cartonnent, ça marche. Le problème, c'est qu'il y a 1200 spectacles tous les soirs à Paris et que sur les 1200 spectacles, la grande majorité, pour ne pas dire 90% des salles aujourd'hui, font la grise mine parce que y a une vraie baisse de fréquentation.
Combien ?
Entre 40 et 70%. Les
70%, c'est colossal.
C'est colossal, mais vous avez des salles. Je vous prendrai un exemple, si vous avez un peu des échos de ce qui s'est passé avec le spectacle de Philippe Cobert. Moi, j'y suis allé un soir, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et pourtant, Cobert ne connaît pas la crise. En général, il refuse des places à chaque fois. Donc, c'est un vrai problème.
C'est vrai quand même que les têtes d'affiche s'en sortent malgré tout.
Oui, les têtes d'affiche s'en sortent.
Édouard Baird, il remplit depuis janvier. Alex Lutz a rempli.
Oui.
Moi, j'ai eu le producteur Jean-Marc Dumonté, qui est un gros, gros producteur de spectacles, comme vous savez, partout en France, et qui produit beaucoup d'humoristes notamment. C'est vrai qu'il me disait, vous le dites d'ailleurs, les spectacles qui marchent continuent de marcher, notamment avec les têtes d'affiche, par exemple. Mais il reconnaissait quand même que malgré tout, même si Lux, etc., Édouard Baird marche, cartonne, néanmoins, il y a moins de réservations de dernière minute, beaucoup moins, quasiment plus.
Les gens s'arrêtent.
Quand les gens ne peuvent pas y accéder, il n'y a pas de remboursement. C'est pas comme pour les transports, hein, on est d'accord.
Exactement. Il n'y a pas de remboursement possible. Donc les gens hésitent à venir. Les gens aussi. Vous savez, à Paris, il y a déjà le problème de la mobilité. Il y a le problème
du stationnement. Aussi,
de stationnement, on a ajouté de la crise à la crise.
Ceux qui sont sur la ligne 1 du métro, ça marche un peu mieux quand même.
J'ajoute qu'il y a un autre problème aussi.
Au Châtelet, ça marche.
Qu'il y a un autre problème aussi, c'est que nos personnels, moi je pense à mes personnels qui doivent se taper 35 km des fois pour venir et à qui on annonce une demi-heure avant le début du spectacle que finalement il ne va pas y avoir spectacle.
Qu'est-ce qui se passe pour les gens de l'opéra ?
Encore quelques noms là, qui arrivent quand même à remplir, Diane. Je crois que.
Il y a par exemple Gaspard Proust. Il remplit les complets. Hein, c'est un humoriste qui est hyper talentueux, que tout le monde connaît. Il y a Funny Girl à Marigny et un Américain à Paris qui marche aussi.
Donc il y en a qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Comment ça se passe ? Donc vous nous parliez des 35 km, mais quand on est au-delà encore des 35 km, quand on part en tournée, comment on fait ? Parce qu'il y a tout le matériel, il y a toutes les équipes, il y a tout à acheminer. Et là,
c'est le drame absolu. C'est le drame absolu parce que ça veut dire qu'il faut repenser les tournées, il faut les repenser dans leur organisation. Ça impacte considérablement sur les coûts parce que forcément, vous êtes obligé de rester parfois plus longtemps dans les villes. Donc, vous avez des chambres d'hôtel en plus à payer. Vous pouvez plus utiliser le train, donc vous devez faire des locations de voitures. Vous devez transiter par des villes qui sont pas les bonnes. Enfin, nous, le SNES représente environ 297, je crois, de mémoire, producteurs qui sont répartis un peu partout en France. Tous font de la tournée et tous se plaignent aujourd'hui d'immobilité.
C'est
la double peine. Et je profite que je suis sur votre antenne parce qu'il se trouve que je vous écoutais vendredi et que j'entendais sur l'antenne d'Europe 1 Franck Riester qui disait on est en train de réfléchir avec nos équipes, tout le monde est concentré pour essayer d'apporter un coup de main à tous ces gens qui souffrent, ces petits commerçants, parce que n'oubliez pas que nous sommes certes des patrons de théâtre, des patrons de petites entreprises, on est surtout des artisans. Donc s'ils réfléchissent, c'est très bien. Moi, j'ai une proposition à leur faire. Il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, suite aux attentats, il y avait un fonds d'urgence qui avait été mis en place. Okay. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement serait bien inspiré de réfléchir très sérieusement à la mise en place d'un fonds d'intervention qui pourrait venir en aide aux plus fragiles d'entre nous. Évidemment, les gros acteurs s'en sortiront, les gros théâtres aussi, les plus petits ont des difficultés.
Un zoom, Diane, sur l'Opéra de Paris, situation terrible.
Alors terrible, alarmante vraiment, tout le monde a en tête les images ces ballerines. Voilà, sur le parvis de l'Opéra de Paris, ces danseuses en tutu qui ont dansé des extraits du Lac des Cygnes pour alerter l'opinion de leur situation. C'est quand même la grève la plus longue des danseurs de l'Opéra de Paris, de l'histoire de l'Opéra. Ça continue. Écoutez, c'est très simple, plus de 60 représentations annulées depuis le 5 décembre. Elles ont toutes été annulées, c'est pas compliqué, toutes. On n'a jamais vu Raymonda, ni Le Parc, les ballets pour les fêtes. De même qu'il y a une dizaine d'opéras qui ont été annulées également, dont le Prince Igor. Les pertes sont absolument considérables.
Abyssales,
on est à plus de 12 millions, entre 12 et 15 millions d'euros de pertes. 130 000 places perdues, soit 16% de la fréquentation annuelle. La saison reprend le 11 janvier, mais on ne sait pas du tout. Déjà sur le site de l'opéra, eh bien, on nous dit que le Barbier de Séville pourrait ne pas
être joué. Donc on est extrêmement prudent et on a entendu votre demande, Fabrice Roux, votre message adressé à Franck Riester. On se dit un mot aussi, Diane, si vous le voulez bien, des musées.
Absolument.
Parce que les musées aussi souffrent.
Oui, ils souffrent. Alors ça dépend des musées là encore, mais le Palais de Tokyo a vu sa fréquentation chuter de 80% quand même, car il ne fermait plus à minuit mais à 19h pour laisser évidemment aux agents le temps de rentrer chez eux. Le musée du Luxembourg chute de 50% avant Noël, donc en décembre, en tout 50% de chute de fréquentation. Pareil pour le Grand Palais, mais qui 25% de chute. Le Grand Palais qui s'est rattrapé un peu pendant les vacances parce qu'il y a quand même eu du monde qui est venu, notamment des Parisiens, figurez-vous, qui n'ont pas pu partir et donc qui ont été voir les expos. Musée d'Orsay, même situation. Le musée qui est obligé de fermer une heure avant pour laisser toujours ses agents partir. L'impact est limité pour le musée d'Orsay. Ils ont eu beaucoup de monde pendant les vacances. Il y a eu un impact pendant les 15 premiers jours de la grève, mais beaucoup de monde pendant les vacances de Noël, car en plus ils fonctionnent avec des touristes étrangers, comme le Louvre, des Américains, des Russes, des Japonais qui viennent voir les collections permanentes, ce qui n'est pas le cas du Grand Palais. Vous voyez, par exemple, ils viennent voir les impressionnistes. Donc ils s'en sortent pas trop mal, et le Louvre pareillement.
Et puis, ce qu'il faut dire, on a entendu votre appel, évidemment, adressé au ministre Franck Riester pour ce fonds d'urgence, mais Fabrice Roux, il faut quand même préciser que le mois de décembre, il est crucial dans votre profession.
C'est
comme pour les pâtissiers ou les...
C'est un mois où on fait quasiment un double mois. C'est un double mois. C'est même parfois un triple mois. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les périodes, la meilleure période pour le théâtre, pour le spectacle vivant en général, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et on a même tendance à dire ces dernières années que c'est plutôt entre le mois d'octobre ou novembre et décembre. Donc là, j'ai envie de dire quel dommage qu'ils aient décidé de faire ça en fin d'année. Il y a une triple peine, j'ai envie de dire. C'est qu'on a tous fait de la publicité pour que les gens viennent dans nos spectacles, notamment dans les métros. Les métros, il n'y a personne. aussi. Une campagne dans les métros à 40 000 euros. Ah oui. Et quand on vous dit à la sortie, attendez, on va vous rembourser 15% de votre montant aussi, de la campagne, c'est un drame. C'est un drame absolu. Faut un fonds d'urgence, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, réfléchissez sérieusement avec vos équipes. On a besoin de sous.
Le message est passé. Et en tout cas, merci à vous d'être venu nous le livrer, Fabrice Roux, dans ce studio ce soir. Merci beaucoup, Diane Chénouda.
Avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois que je viens, mais bien sûr.
Voilà, Émilie Mazoyer est là. Salut, beaucoup de plaisir à se retrouver.
Oui, et ce soir, le rock français à l'honneur avec le retour de Blancas.
À la croisée des grands soirs. Donc, commencer à sortir des albums dans les années 90 et demain va sortir C'est quoi ton nom ? Nouvel album de Blancas. Ils viennent nous en parler juste avant que ça sorte. Et on va être bien avec eux tout à l'heure dans musique. Mais oui, alors on va vous écouter. C'est merci, le rock français. Nathalie. Merci, Émilie Mazoyer. Merci à tous de nous avoir été fidèles. Merci à vous en studio et en régie. On vous dit à demain. Belle soirée à tous. Rendez-vous 18h-20h sur Europe 1. Anissa, pour écouter
Le Monde Changé. À demain, c'était Nathalie Lévy.